Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bienvenue à vous tous. Durant ces deux prochaines heures, vous le savez, vous allez pouvoir affiner, améliorer votre culture générale et apprendre plein de choses, sourire aussi, grâce à Mathieu Noël et à cette équipe est sauvage, fidèle au poste chaque après-midi sur Europe 1. Alors, aux côtés de Mathieu Noël, on trouve toujours Eva Rock. Il y a bien sûr nos journalistes en compétition, les invités de la semaine passée, venus participer, arbitrer, parler de leur actu, bien sûr. Et cette semaine, eh bien, il y avait par exemple le journaliste de C'est Politique sur France 5, Karim Rissouli, l'humoriste Verino, les acteurs Michel Blanc, Michael Youn, Sylvie Testu et le chanteur Tété. Côté chronique, durant l'heure qui suit, on prendra des nouvelles du navigateur François Gabart, arrivé en deuxième position de la Brest Atlantique. Avec notre spécialiste Ciel et Espace, on parlera de la déclaration de guerre des étoiles, des astronomes, un space cowboy milliardaire. Il y aura aussi notre monsieur littérature qui nous dira qui se cache derrière les pseudos de quelques écrivains. Mais pour commencer, voici le sujet d'Ève Roger.
La dernière fois, elle nous avait révélé ce que pensent les femmes durant l'amour. On avait découvert que globalement, elle pensait
« Qu'est-ce que je fais là ?»
Aujourd'hui, Eve, vous nous entraînez dans la tête des hommes pendant l'amour.
Eh oui, alors on va commencer par un petit air de pâte à choux pour aiguiser votre curiosité.
Il y a ceux qui font la chose en chantant une chanson, en battant la mesure, en tapant du talon.
Voilà, j'espère que tout le monde autour de cette table a compris ce que t'es la chose, avec plein de haut dans la bouche.
Regard luisant de Karim Rissouli, je crois que notre invité a compris.
Alors donc, à quoi pensent les hommes pendant l'amour? On va commencer tout de suite avec un témoignage, nous l'appellerons David, beau gosse hétéro, la trentaine, grand bon et grand blond et musclé.
Grand bon, elle a dit.
Grand bon, j'ai entendu.
Oui, l'inconscient déjà. C'est Benjamin Lévesque qui me l'a dit, puisque c'est lui qui lui a posé la question lors d'une soirée.
Je vais te surprendre, c'est que moi, quand je fais l'amour à une femme, le plus important, c'est le plaisir de ma partenaire. Je sais qu'il y a un mois, il y a une femme qui était comme ça. J'y allais doucement parce que c'était pour moi de la douceur avant tout. Mais non, elle voulait quelque chose d'un peu plus violent, un peu plus rentre dedans. Et c'est elle qui m'a demandé de lui mettre des fessées, etc. Et je me suis adapté en fonction de ce qu'elle voulait. Parce que moi, je suis satisfait quand cette demoiselle est satisfaite.
Alors, plusieurs surprises, la fessée d'abord. Et puis, tous ceux que j'ai interrogés me l'ont confirmé. Mathieu Charrier le premier.
Il pense... Mathieu Charrier dans cette galère.
Ils pensent avant tout à leur partenaire, à leur plaisir et à son plaisir. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire jouer une femme, mais pourquoi tant de générosité?
Surtout j'étais pour Mathieu Charrier.
Assez surprise, ce désir de faire plaisir du côté des hommes. Et vous allez voir le décryptage de la sexologue Catherine Blanc est un peu moins à leur avantage que ce qu'on aurait pu croire.
Les hommes sont assez préoccupés du plaisir féminin, mais c'est-à-dire de leurs propres compétences à faire jouir. Évidemment qu'ils cherchent tous azimuts où est-ce qu'ils pourraient avoir un écho de leurs compétences. Le bruit, le souffle, des seins qui se contractent, des yeux qui s'abandonnent. Et donc, ils sont au spectacle de leurs possibilités. Ça n'est pas toujours simple.
C'est cet apparent altruisme, en fait, voilà. Cacherait, selon Karim, notre invité, peut-être une forme de mégalomanie aussi.
Exactement. Mais dont je ne suis pas...
Mais évidemment, je vous connais un peu, le sais.
Oui, alors, moi, ça a été quand même une révélation de réaliser qu'en fait, pendant l'amour, les deux pensent à la même chose, au plaisir féminin, l'homme et la femme. C'est quand même chouette, non? Évidemment, les hommes... Alors, comme les femmes aussi, pensent parfois aussi à autre chose. Alors, vous avez d'abord les pensées teintées de culpabilité. Il ne s'est pas protégé, il n'a pas mis de préservatif. Ou alors, cette petite gêne, quand il en lasse une autre que la régulière aussi. Et puis, il y a les pensées parasites, celles du quotidien. Une étude récente a montré que 20% des cadres pensaient au boulot pendant l'amour. Et chez Damien, on va l'entendre, jeune homme très investi, les
faits... C'est-à-dire que si moi, je penserais à Eva, par exemple, pendant l'amour. Si je pense au boulot pendant l'amour.
Au boulot, pas aux personnes. On y viendra après.
Allez, moi, quand je pense boulot, je vois Eva. Je vois la tête d'Eva qui m'insulte parce que j'ai oublié tel ou tel sujet, que je suis pas d'accord. Donc là, franchement, là, pendant l'amour, ça va être compliqué.
Vous allez voir chez Damien passer au boulot, ça a un effet très radical.
J'étais rentré d'une journée de travail particulièrement harassante et il a fallu qu'à un moment donné, au moment où on changeait de position, j'ai repensé à ce que mon patron m'avait dit, une réflexion, et donc ça m'a directement cessé toute envie.
Damien, ne changez plus jamais de position.
Il n'y a pas besoin d'être dans la même position.
Évidemment, il faut remonter en selle. Et pour ça,
c'est bien dit.
Et pour ça, parfois, on convoque quelques fantasmes.
C'est vrai qu'en retour de soirée, des fois, il m'arrive de penser à des fantasmes tels que des films pour adultes, voilà, des actrices de films pour adultes, quand je suis éméché, effectivement.
Donc vous avez compris, seulement quand il a vu.
Seulement,
hein, le reste du temps, il pense au plaisir de sa partenaire.
On ne pense jamais à des actrices de films pour adultes quand on n'est pas éméché. Ça ne viendra à l'idée de personne, évidemment.
Et pour conclure, je citerai mon voisin de bureau, un autre.
Donnez-nous un nom.
Donc je tairai le nom, mais on verra tout
Emmanuel
à l'heure.
Dutheil.
Non, c'est pas mon voisin de bureau.
Ouais, il y en a deux, non ?
Il m'a dit juste avant de venir, quand je lui ai dit à quoi pensent les hommes pendant
Nicolas Caro.
Alors, je vous le dirai après. Voilà. Écoutez la citation. Quand c'est ta maîtresse, tu te dis, faut que je me retienne. Non, tu te dis, il faut que je me retienne. Quand c'est ta femme, tu te dis, faut que je bande.
Oh mon Dieu, c'est horrible. Et donc, on a reconnu Nicolas Caron, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en plus, on connaît son épouse, elle était venue un jour charmante. C'est dégueulasse. Et merci, Ève Roger, pour cette analyse du ressenti des hommes durant l'acte sexuel. Jérôme Lacroix, un commentaire sur le sujet.
Il faut savoir être efficace quand on est sur le terrain, peu importe le temps qu'on y passe.
Pas mieux.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, c'était cette semaine sur Europe 1. Jeudi, Michael Youn et Sylvie Testu étaient venus nous parler du dernier film dans lequel ils jouent.
Vous faites rire tout seul, c'est ça qui vous fait rire.
Que je me souviens.
Vous êtes drôle.
Je me souviens de la grande époque du Morning Live. C'est toute ma jeunesse.
Mais oui, je sais.
Bah, et oui, vous étiez déjà. Vous,
ça va, ça va, ça va.
Vous étiez plus Bouillon Culture, moi j'étais plus Morning Live. Avec nous justement cet après-midi, Michael Youn et son acolyte Sylvie Testu pour la sortie prochaine de La Comédie des Vacances. Bienvenue chez les Malawa de James Hutt, avec également Ramzi Bedia et Christian Clavier. Le tournage, il a été aussi sportif qu'un numéro de rendez-vous inter-inconnu ou ça a été quand même plus confort?
Moins confort.
Moins confort.
Moins confort.
C'est-à-dire... Plus sportif.
Ah ouais, c'était l'enfer. Non, mais parce que ce soit à l'état sauvage avec Mike Horn ou rendez-vous en terrain inconnu avec, ouais. Avec Fred, ça dure dans un cas une semaine, dans
dix
l'autre
jours.
10 jours. Là, ça a duré 12 semaines. C'était l'enfer. Il faisait 55. Non, mais les conditions sont terribles, quoi. Il faisait 55 degrés. Vous savez, les scénarios sont reliés avec des spirales en plastique. Elles fondaient sur le capot de la voiture. Le temps entre le moment où vous sortiez de votre loge, enfin de votre loge, j'imaginais pas un truc.
C'était quoi la loge?
Bah, la loge, c'est une tente avec deux chaises.
Hein. Ah oui, d'accord. C'était quand même
le moment où on sortait de la loge et le moment où il fallait crapahuter pour monter tout en haut de la montagne, l'endroit où on tournait, vos chaussures avaient fondu. Et puis, Dieu sait que Mike Horn ou Frédéric Lopez, au bout du 5 ou 6e jour, peuvent être horripilants, mais ça n'a rien à voir avec Christian Clavier. Il est là-haut.
Alors, vous raconterez après qui a été le plus relou sur le tournage, même si vous avez déjà partiellement répondu. Alors, si vous aimez le sport, si vous aimez le dépassement, vous aimez Virginie Fulpin, l'éditorialiste sport d'Europe 1. Mais Virginie, une fois n'est pas coutume, c'est pas dans un stade que vous nous conviez aujourd'hui, mais dans une salle des ventes.
Exactement, pour le manuscrit du texte fondateur des Jeux Olympiques qui va être mis en vente chez Sotheby's à New York la semaine prochaine. Alors c'est un texte de Pierre de Coubertin, évidemment, 14 pages écrites à l'encre noire, avec des rayures, des ratures. Tout ça, c'est dans le style de l'époque. Hein. C'est très emphatique. Pierre de Coubertin exalte l'esprit d'excellence et de fair play. Et puis en toute modestie, il décrit les JO à venir comme une œuvre grandiose, universelle et bénéfique, tout simplement. Bon, bah, cela dit, on comprend qu'il soit porté par son projet. Il y avait de l'idée, ça a pas mal marché après, a priori. Donc, Pierre de Coubertin a écrit ce manifeste. Ça faisait des années déjà qu'il pensait à cette idée. Et pourtant, à la base, lui, il est né dans l'aristocratie française. On le destinait à une carrière de militaire ou d'homme de loi. Le chemin était tout tracé. Et c'est en Angleterre qu'il a découvert sa véritable vocation. C'est là que ce petit bonhomme d'1m62 a commencé à jouer au rugby. Et il s'est dit, mais c'est génial, en Angleterre, il y a du sport à l'école. Il faudrait qu'on fasse la même chose en France. Et en rentrant, mais il a participé activement à la réforme de l'enseignement pour y inclure le sport. Et puis, en 1889, il y a eu l'exposition universelle à Paris. Le monde entier est venu s'émerveiller devant la toute nouvelle Tour Eiffel. Et lui, il a organisé un congrès des exercices physiques. C'est comme ça que ça s'appelait. Hein, Exactement, il a commencé à se faire un petit carnet d'adresses mondial et il avait déjà cette idée des Jeux Olympiques. Et ensuite, il a donc écrit ce manifeste avec des vraies valeurs humaines. Hein. Les Jeux sont mondiaux, tous les peuples doivent y être admis sans discussion. Il parle du triomphe de la diversité. On va quand même mettre un petit bémol, hein, parce que la diversité, mais pas pour tout le monde, pas pour les femmes, hein, ça jusqu'au bout de sa vie. C'était pas trop sa priorité, exactement.
Ça sert à rien.
Non, ben voilà, pas de femmes en athlétisme, bon, ça, il n'en voulait absolument pas. Donc ce manifeste...
Ça déconcentre.
Ça va moins vite.
Ça sert à rien. Donc oui, le reflet d'un rêve et puis aussi quand même un peu d'une époque.
Et alors ce manuscrit historique va donc être mis en vente chez Sotheby's à New York et à part Michael Youn, personne autour de cette table va pouvoir l'acheter.
Bah, sauf si vous avez $1 million environ.
C'est ce que je dis. Voilà.
Ouais, c'est ça. Ce serait le record pour un trésor du sport parce que c'est un document historique et puis parce que vu l'importance prise par les JO et vu que le texte de Pierre de Coubertin met en exergue les valeurs de l'Olympisme, ça fait toujours bien d'avoir ça dans son salon a priori. Hein.
Je suis pas sûr que les Russes l'achètent. finalement. Hein. Ils sont pas chauds.
S'ils sont drôles,
oui. 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 On est d'accord avec vous.
Mais l'important, c'est de participer.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Oui, nous sommes avec Mathieu Noël et Varoc. Et pour les moments, bien sûr, qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Vendredi dernier, Mathieu Noël recevait Michel Blanc pour le film Docteur, actuellement en salle. L'histoire d'un SOS médecin au bout du rouleau qui croise la route d'un livreur et à qui il propose de prendre sa place provisoirement.
Édition très émouvante aujourd'hui, chers auditeurs de l'équipée sauvage, car il y a, je n'ai pas peur des mots, une véritable communauté de destin entre notre invité Michel Blanc et moi. En effet, à cette nuance près que je n'ai ni son talent ni sa carrière, Michel et moi avons en commun le personnage gaffeur et maladroit de Jean-Claude Duss, rôle de composition pour Michel, rôle plus instinctif pour moi, qui fait partie de ceux qu'on appelle les Jean-Claude Duss dans la vie. Nos derniers invités, dont notamment les membres du groupe IAM, ont pu le vérifier. Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage. J'ai réussi, là, c'est le record du monde. Je me suis planté dès le deuxième mot.
Adel Malik, on sait que vous êtes papa, vous avez deux enfants, si je ne m'abuse.
Trois.
Ma première question est beaucoup plus prosaïque. Quand vous avez créé NTM en 89...
On n'a pas créé NTM, on a créé IAM.
Je ne m'en lasse pas.
Ça fait quoi de rencontrer le vrai Jean-Claude Duss après toutes ces années? Vous l'avez enfin face à vous. Ça fait drôle.
Si je vous avais connu avant, peut-être que je me serais amélioré. Hein.
Il n'y a pas du tout, alors évidemment c'est un personnage j'imagine dont on vous parle tout le temps, il n'y a pas du tout de maladresse chez vous. Il y a du Jean-Claude Duss un peu en Michel Blanc, ou c'est un pur rôle de composition tout simplement?
J'espère que non, parce que le pauvre, sa vie cumule. Est un enfer quand même hein, dans les films.
Alors Michel Blanc, je vous ai vu chez Quotidien, l'émission de Yann Barthès, expliquer avec une humilité assez invraisemblable que si le film Les Bronzés font du ski, dont on fête les 40 ans cette année, était culte, c'était que 1, les chaînes de télé avaient la gentillesse de le repasser chaque hiver, et que 2, le ski n'ayant pas changé, il y a toujours des télésièges qui tombent en panne et des gens qui se vautrent comme Jotène Balasco, on s'y retrouve. Il n'y a quand même pas que ça dans Les Bronzés font du ski, il y a quand même des dialogues et c'est quelque chose.
Oui, il y a des dialogues, mais je pense que le fait que des générations des mômes qui ont 10 ans, pourquoi ils s'y retrouvent? Parce que la neige, ça n'a pas changé. Ça fond de temps en temps, mais ça ne change pas. Et c'est ça qui les fait rire. Après, en plus, les adultes aiment bien les répliques. Mais...
Michel Blanc, le film Les Bronzés font du ski, est-ce que vous considérez qu'il est meilleur que Les Bronzés?
Oui, je ne l'ai pas écrit, il est meilleur.
Vous avez plus écrit Les Bronzés que Les Bronzés font du ski?
Oui, complètement. J'ai simplement retravaillé mes dialogues dans Les Bronzés font du ski, mais la structure, les scènes, les idées de scènes, ce n'est pas moi.
Et quand je vous disais que Michel Blanc, il était humble,
oui.
C'est quand même beau d'avouer
non,
ça.
Non, quand je suis content d'un truc que j'ai fait, je le dis, mais quand je ne l'ai pas fait,
mais pourquoi
et que c'est
il
bien.
Est meilleur
parce que je n'avais pas envie de faire une suite. Voilà, je suis un peu...
Déjà à l'époque, parce qu'on sait que vous ne vouliez pas faire Les Bronzés 3,
non,
mais les Bronzés font du ski déjà.
Le problème, c'est que je trouvais que le producteur nous imposait de faire une suite. Nous, on avait une autre idée. Qui était assez starvé, hein, je ne sais pas si ça aurait marché, et qui s'appelait « On a mangé l'hôtesse de l'air ».
Donc, j'achète.
Moi aussi, j'étais très client de l'idée. Voilà, un avion qui se pose en montagne, pareil, il y aurait eu de la neige. Hein, et voilà, il y a un moment...
Une version trash des Bronzés font du ski.
Voilà. Mais bon, il n'a pas voulu, parce qu'il aimait bien prendre l'avion, et ça lui foutait les jetons.
Mais il faut le faire aujourd'hui, maintenant que vous cherchez à vous retrouver, que vous ne voulez pas faire les Bronzés 4. Il faut relancer l'idée.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Qui est pour vous Michel Blanc? On vous a posé la question. Voici Michel, non pas un classique micro-trottoir, toujours monté de sorte à flatter l'ego de l'invité. Voici notre micro-trottrash. Même principe, sauf qu'on a tout laissé.
Michel Blanc? Ah oui, Michel Blanc, bien sûr, un acteur absolument... Non. Ah non, Michel Blanc, le politique.
Il a joué dans Les Bronzés font du ski, etc., etc. Et alors?
Il fait partie de notre vie, voilà, Michel Blanc.
Il a un joli regard. Je pense que c'est quelqu'un de réservé.
Tous les rôles dans lesquels il a joué, et c'est toujours le pauvre garçon, quoi. Hein, on a presque pitié de lui, alors qu'on sait qu'il n'est pas du tout comme ça en tant qu'homme. Mais dans ses rôles, il excelle.
J'avais vu un film, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Mélanie Laurent ou... Et il meurt à la fin d'ailleurs, le pauvre.
Jean-Claude Duss.
Je pense qu'il est assez pudique, c'est pas quelqu'un qui se montre. Il fait son travail, mais en toute discrétion, je trouve, c'est bien.
Et en plus, il aime le thé. Vous savez pas qu'il aime le thé, Michel Blanc?
Très drôle, truculent.
Chaque fois qu'il y a un film qui se joue, dans lequel il y a Michel Blanc, là, c'est au moins quelque chose de détendant.
De détendant.
À minima, j'ai envie de dire. Pudique, réservé, ça c'est vrai que c'est un trait de caractère qu'on vous prête souvent.
vous définiriez comme ça ?
Oui, parce que je parle très volontiers. Hop, tiens, il y a quelqu'un qui justement est d'accord, qui vous appelle pour dire à quel point je suis pudique et réservé.
C'est Gérard Jugnot.
Non, c'est ma mère. C'est ma mère. Ben, bon, vous avez raccroché au nez de ma mère.
Oh mon Dieu.
C'est pas sympa du tout. Oui, non, je ne fais pas partie des acteurs qui aiment étaler leur compagne, leur vie privée, leur machin. Parce que je trouve que ça, les gens s'en fichent complètement. Hein. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'on fait quand on tourne. C'est ce qu'on leur propose professionnellement. Voilà. Puis je ne trouve pas qu'elle soit extrêmement passionnante, ma vie privée. Elle l'est pour moi, mais pour les autres...
Certains n'ont pas de vie privée passionnante, ils l'affichent quand même, hein, ça, oui, ça les gêne pas. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Vous serez donc à l'affiche mercredi prochain de Docteur, un film de Tristan Seguela. Ce film démarre par un avertissement. Ce film a beau être inspiré de faits réels, les auteurs tiennent à préciser qu'ils gardent toute confiance dans le corps médical. C'est vrai qu'il vaut mieux petit avertissement, parce que moi qui suis hypochondriaque, par exemple...
Vous aussi.
Ah oui, moi aussi. Oui,
mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Finalement, à chaque fois
on
que je
plus
fais...
En plus.
Oui. On me dit, ah mais moi aussi, ah mais moi, Tristan est un...
Aussi, le réalisateur du film.
Mais, lui, il est en catégorie professionnelle, quoi. Il joue dans le haut du tableau. Hein. Il est pire que moi. Ce qui n'est pas peu dire.
Ce qui n'est pas peu dire. Vous avez déjà croisé un docteur dont vous avez mis en doute les diplômes. Vous êtes dit, lui, est-ce qu'il est vraiment docteur?
Non. Moi, j'ai une confiance absolue. Voilà, j'ai des médecins en qui j'ai une confiance absolue.
Mais est-ce que votre hypochondrie vous a un peu empêché parfois de jouer certaines scènes, ou en tout cas d'évoquer certains sujets de maladie?
Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, quand je suis sur un plateau, Michel Blanc n'est pas là. Il y a le personnage. Mm-hmm. Après, je rentre dans la loge, je peux très bien avoir une crise d'angoisse et me regarder parce que j'ai une rougeur, mais sur le plateau, ça ne me gêne pas du tout.
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Nous sommes avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et un invité, en l'occurrence ici l'humoriste Vérino, qui mercredi découvrait la chronique de Nicolas Carreau, le monsieur livre d'Europe 1.
Prenez Nicolas Carreau par exemple. Le type était clairement fait pour évoluer dans les salons littéraires du 19e siècle, une pipe aux lèvres, et pour finir noyé dans la Seine de manière bien romanesque, c'est après une cuite à l'absinthe au Café du Chat Noir avec Toulouse-Lautrec à beugler. Hélas, rien ne s'est passé comme prévu. Il est né au 20e siècle et il a fini journaliste en CDI avec un crédit LCL sur le dos, comme tout le monde. Nicolas Carreau, pour vous échapper un peu de cette triste fatalité, vous nous parlez aujourd'hui des pseudos d'écrivains.
Mais oui, il y a différents objectifs dans la décision de choisir un pseudo pour un écrivain ou pour un artiste. D'ailleurs, certains veulent se cacher, d'autres veulent simplement marquer une différence entre leur vie de quidam, de citoyen et leur vie d'écrivain. Le pseudonyme, pourtant, c'est le nom qui passe à la postérité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains que l'on connaît sans même savoir qu'en fait leur nom est un pseudonyme.
Qui?
Comme Lewis Carroll par exemple.
Lewis Carroll, c'est un pseudonyme?
Eh bien oui, l'auteur de l'Alice au Pays des Merveilles. Son vrai nom, c'est Charles Ludwig Dodgson.
Bon, et en ça fait, sonnait bien ça, dis donc.
Oui, c'était pas mal. Il a traduit ses deux premiers noms en latin, Charles Carolus, Ludwig Ludovicus, puis il les a réanglicisés. Ça donne Carol Lewis, Lewis Carroll.
C'était même très compliqué.
Oui, il y a 8 ans. C'est Alice au Pays des Merveilles, à côté un peu absurde. Céline, bien sûr, Louis-Ferdinand Céline, s'appelle en réalité Détouche. Il était médecin et il a choisi Céline parce que c'était le prénom de sa grand-mère. Stendhal, bien sûr, c'est Henri Bell. Stendhal, c'est le nom d'une ville allemande qu'il a traversée. Il a trouvé que ça sonnait bien. Il y a Elena Ferrante, bien sûr, qu'on connaît toujours pas sa véritable identité.
Même vous ne savez toujours pas qui se cache derrière Elena Ferrante. Comment ça
s'appelle ? Mais j'ai pas le droit de le dire.
Il y a un journaliste italien il y a 3 ans qui a enquêté et qui a sans doute trouvé la vérité, mais il y a eu un tollé que
c'est
je partage.
C'est non, pas Loana ?
Je crois. Après,
il me semble. C'est sa cousine en fait. Et en fait, donc on sait sans doute qui c'est, mais moi je fais partie des gens qui veulent garder ce secret parce qu'elle refuse.
Vous foutez de ma gueule, vous allez nous dire tout de suite qui c'est, oui.
Non, elle refuse de le
vous
dire.
Vous voulez vos points ou pas ?
Non,
vous voulez les points ?
Tant pis. Enlevez-moi des points si vous voulez.
Moi je vous nomme gagnant
sur
direct.
Internet. Vous irez voir si vous avez envie. Moi je trouve ça très beau en fait qu'elle essaye de garder. Ou il d'ailleurs.
Elle.
Ou il.
Ah, donc c'est une elle.
Ou il, ILS, parce que ça peut être un couple aussi.
Ouais.
Un couple d'écrivains.
Voilà. Il y a Houellebecq, Michel Thomas. Alors, ah lui, c'est parce qu'il était en froid avec sa famille, très en froid même. Et puis évidemment, il y a Romain Gary qui gagne le Goncourt pour la deuxième fois.
Ça, c'est quand même classe.
Sous le nom d'Émile Ajar. On a su qu'après sa mort, qu'il s'agissait de la même personne. D'ailleurs, Gary a envoyé le jour de son suicide à son éditeur le livre Vie et mort d'Émile Ajar qui se termine par ces mots: je me suis bien amusé, au revoir et merci. Ça, c'était un geste littéraire.
Classe.
Boris Vian, Vernon Sullivan, l'auteur de J'irai cracher sur vos tombes, il prétendait traduire les romans de cet écrivain américain qui était donc lui-même. Et il publiait sous ce nom des romans plus sulfureux, plus à l'américaine. D'ailleurs, il a été condamné à 15 jours de prison pour J'irai cracher sur vos tombes, pour atteinte aux bonnes mœurs. Mais heureusement, il a été amnistié.
Merci beaucoup, Nicolas.
Et Vérino, pourquoi Vérino?
Alors pourquoi Vérino? Mais ça, c'est une question qui vient après dans l'interview.
Ah,
mais si vous voulez la poser maintenant, vous avez raison.
Ah, faisons l'exploser dans cette émission.
Faisons exploser le concept.
C'est n'importe quoi.
Faisons exploser les codes. Vérino, pourquoi Vérino?
Eh bien, par rapport à toute la classe qu'on vient de se prendre sur les auteurs, moi, c'est vraiment. J'ai raté mon nom de scène. J'ai choisi un nom. Le nom de Severiano Ballesteros,
le golfeur,
parce que mon nom de famille c'est Ballesteros.
Et vous êtes fan de golf ou...
Pas du tout, mais j'en ai entendu parler toute ma jeunesse. Et donc moi j'ai pris un bout de son prénom, je pensais qu'il s'appelait Severino, et je me suis rendu compte 2 ans plus tard qu'il s'appelait Severiano. Donc si vous, on est dans un truc, c'est loin d'être Louis Ferdinand Céline, quoi.
On est sur un gag dès
la
le choix,
de l'échec.
Dès le choix du pseudo. Merci en tout cas, Nicolas Caron, de reconnaître, malgré le concept compétitif de cette émission, que c'était une belle chronique. Comment vous l'avez trouvé, Anissé?
C'est nul. Ça pue.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et on reste avec Mathieu Noël, Eva Rock, les invités bien sûr de la semaine passée. Lundi, tiens, c'était le chanteur Tété qui était venu nous parler d'ailleurs de la réédition de son album Fautantique.
Les amis, c'est tremblotant que j'aborde la première séquence interview de notre émission. En effet, après l'incident dit de « Bonjour NTM, non nous c'est IAM », au lieu de relever la tête et de renouer avec une forme de dignité journalistique, j'ai encore joué de malchance vendredi alors que nous recevions Michel Blanc. Et le problème, c'est pas tellement de faire une bourde. Le problème, c'est toujours de faire une bourde d'entrée sur la première phrase. Michel Blanc, c'est tout simplement Michel Blanc, hein, les bronzés, tenue de soirée, grosse fatigue, marche à l'ombre, l'exercice du pouvoir...
De l'État.
Exactement, donc là on refait. Aujourd'hui, je suis à la fois ravi et inquiet d'avoir l'opportunité d'interviewer Tété, chanteur éminemment talentueux, qui dans son dernier album dénonce les faussaires. Dois-je me sentir visé? Alors, vous dénoncez dans cet album effectivement les pratiques. On en parlait avec Anissé Mbida, hein, le thème de cette émission rejoint celui de l'album. C'est tous ces mensonges qui nous entourent et surtout ces fake news. Alors, on est dans l'ère des fake news, mais j'ai lu vos interviews, vous n'êtes pas dupes. Vous savez que les fake news, ça existe depuis toujours. En fait. Elles sont juste relayées plus rapidement par notamment les réseaux sociaux.
Plus rapidement, et puis on a un nouveau mot pour les désigner, c'est la fake news, mais qui avant était appelée la rumeur et qui a toujours existé dans les villages. Hein. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pareil, encore une fois, un nouveau mot, le storytelling dont tout le monde nous parle. Et ben, c'est cette art de raconter des histoires. C'est une histoire d'où ça vient, comment ça naît et comment ça se diffuse. Et ce qui me fascine dans le mensonge, c'est qu'un mensonge, c'est une histoire aussi.
Oui.
Une
et histoire fausse. Et parfois une belle histoire.
Et parfois
plus séduisante que la réalité.
Bah, complètement. Et c'est vrai que le romancier, il sublime, il crée du sens. Et pour créer du sens, on est toujours plus fort quand on exagère un petit peu. Quoi. Si je vous dis, je me suis levé ce matin, je me suis tordu la cheville, c'est pas super intéressant. Si je me dis, je me suis levé et il y avait un trou dans mon plancher, je suis tombé à l'étage du dessous, tout de suite, j'ai votre attention.
C'est
un petit peu de mensonge, mais c'est pas méchant non plus. Quoi, je veux dire.
Vous parlez même de manipulation. Hein. Vous dites, est-ce que notre attention nous appartient encore? Est-ce que nous ne sommes pas manipulés quand on cherche une chose bien précise sur Internet et qu'on se retrouve 3 heures plus tard en train de regarder des vidéos de chatons tombant d'une étagère ou en train d'acheter un produit anti-tache miraculeux dont on ne connaissait pas l'existence 3 minutes avant? C'est vrai que ça, typiquement, on vit dans une ère où on prend notre téléphone pour une... On a reçu un SMS, par exemple, et 2 heures plus tard, on est toujours dedans.
Exactement.
Vous êtes victime de ça, vous, au quotidien?
Ah ben, tout le temps. Et donc, l'idée, c'était moi de m'amuser de ce travers-là, en espérant qu'il résonne avec celui des autres. Et ce que je me dis, c'est quand j'avais 15 ans, alors c'est pas un truc d'être passéiste, mais les seules choses qui me faisaient, c'était des potes qui pouvaient passer à la maison. Bon, et on a dit 10 minutes, tu bois un café, tu t'en vas, et puis 2 heures plus tard, t'es encore en train de parler avec le gars. Alors c'est vrai que je trouve ça plus rigolo de parler avec un copain 2 heures que de regarder une vidéo de petit chat alors que...
C'est vrai. On se sent jamais bien après avoir... On a rigolé sur le moment de voir une vidéo de petit chat, mais on se sent rarement bien après avoir passé 1 heure sur les réseaux sociaux, par exemple, Eva. C'est ça que vous me regardez avec des grands yeux.
Non, c'est parce que je vous imaginais pas en train de...
On peut être content d'avoir passé cette heure-là.
C'est ça, c'est ça.
Vous êtes papa, vous avez des enfants. Vous fixez des limites, justement, sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation...
Mes enfants, ils sont trop petits encore. Ils ont 4 et 7 ans, donc
ils n'y vont
pas.
Mais les écrans font partie déjà de leur vie, j'imagine.
On essaie de limiter. On essaie de limiter le plus possible. Bon, après, ça, c'est les usages de chacun. Mais c'est vrai que c'est... sans vouloir faire le vieux schnock, parce que j'adore Internet et j'y déverse des heures de contenu.
Mais oui, vous êtes très
actifs. Hein, donc, je suis quelque part de mauvaise foi et j'ai un certain tout fait de parler du truc parce que je fais partie du problème. Mais je me dis, voilà, ils ont bien le temps de s'y mettre. Quoi.
Vous dites aussi, si je ne m'étais pas ennuyé plus jeune, je n'aurais jamais commencé à jouer de la guitare et écrire des chansons. Vous pensez justement que le fait que les jeunes... Les
les ados ne passent leur temps sur les réseaux sociaux et donc n'aient plus de ces moments d'ennui qui sont propices pour la créativité. Vous pensez que ça va nous faire une génération avec des artistes pourris ou pas d'artistes?
Ça, je peux pas le dire. Et puis surtout, j'essaie de faire vraiment très attention à... Moi, j'ai 44 ans. Au contraire, j'essaie de faire très attention de rester au contact de types plus jeunes que moi, de travailler avec des types plus jeunes que moi qui me dépoussièrent un petit peu, qui me Après, je pense effectivement que l'ennui, c'est génial parce que le cerveau ne supporte pas le vide. Et quand il y a du vide, le cerveau essaie de le recréer. Et des fois, on trouve une chanson sympa comme ça, on trouve une idée qu'on n'aurait pas trouvée autrement. Alors que quand on est tout le temps sollicité, on est un peu en mode automatique, quoi.
Le cerveau a la peur du vide, sauf celui des Varrocks. Tété, reste avec nous sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous aimez Noël, mon cher Tété?
J'adore.
C'est une période vraiment festive pour vous?
J'adore parce que ça me rappelle les Noëls chez mes grands-parents enfants, donc forcément c'est ma petite Madeleine, ma petite parenthèse perso. Et puis, quand on est jeune papa, ça, on renoue avec un truc, forcément.
Évidemment, ça repart.
Oui.
On remet le compteur à zéro. Vous dites, je me suis cassé la jambe à 16 ans et ma mère m'a offert une guitare, c'est parti comme ça. C'est une Julio Iglesias, comme on appelle ça dans le milieu de la musique.
C'est-à-dire ?
Il était gardien de but au Real Madrid quand il était jeune. Bon, alors peut-être pas en équipe première, mais en tout cas dans une équipe du Real Madrid. Il voulait être footballeur professionnel et c'est à la suite d'un accident où il s'est cassé peut-être la jambe ou la cheville et il a été hospitalisé. C'est là qu'il a découvert la guitare, c'est là qu'il a découvert la musique,
drôle,
en fait, qu'il a commencé. Vous avez fait une Julio Iglesias. Et sans ça, est-ce que vous pensez que vous auriez reconnecté un moment avec la musique ou vraiment
non.
C'est un...
Non, je pense pas. Je pense pas parce que je suis venu à la chanson par le biais de la guitare.
Ouais.
Et sans ça, j'aurais jamais assumé le fait d'essayer parce que l'instrument peut se cacher derrière. Vous voyez, on peut. Alors que je pense que faire ce cheminement-là en tant que chanteur juste, sans avoir d'instrument derrière lequel on peut se cacher, c'est beaucoup plus difficile. Et très clairement, j'aurais jamais eu le courage.
Je ne vais pas rentrer dans ma flagornerie qui parfois est un mal qui m'atteint, mais j'ai l'impression que vous êtes resté complètement imperméable à toute forme de grosse tête. Vous m'avez l'air d'une simplicité, c'est la première fois qu'on se rencontre et il n'y a pas du tout ce masque que peut avoir la star, entre guillemets. Voilà, vous avez, je ne sais pas combien, 6 millions, je crois, de téléchargements sur Spotify ou en streaming. Vous pourriez très bien vous la péter un petit peu et vous êtes...
Bah en fait,
très sympathique.
Curieusement, plus le temps passe, mais curieusement, plus le temps passe et plus on gagne en simplicité parce qu'on comprend le prix que ça a. C'est-à-dire que quand vous faites très jeune un premier album et puis tout de suite ça marche, tout de suite vous êtes signé, il y a plein de types qui se disent c'est parce que je suis un génie.
Oui.
Et puis,
on comprend pourquoi.
Disons qu'en tout cas, c'est l'histoire que vous pouvez risquer de vous raconter. Mais quand vous faites un second, puis un troisième, et puis un quatrième, etc., on se rend compte que c'est tellement improbable cet alignement de planètes que ça ne peut pas tenir qu'à soi. Et c'est vrai que moi, mon public m'accompagne de manière très élégante depuis 20 ans. Et chaque année qui passe, je crois que je le mesure un peu plus. Ne serait-ce qu'en pensant aux copains qui font plus ce métier.
Ouais.
En pensant aux copains qui font plus de tournées, par exemple. Il suffit d'arriver dans une salle, souvent il y a des affiches. Et les types, en fait, pensent bien faire en mettant ces affiches de groupes qu'on comptait. Mais sauf que vous, quand vous arrivez 10 ans plus tard...
Fait un peu cimetière.
On se dit, c'est vrai que ça fait 3 saisons que je croise plus machin. C'est vrai que, alors c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est au contraire, c'est très lumineux tout ça, quoi. C'est de se dire, c'est super, t'as de la chance, vas-y, quoi.
Une question s'impose chaque jour aux alentours de 6h moins le quart. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Pour y répondre, notre expert en gastronomie de crise, l'irremplaçable Olivier Pouls, également connu dans le métier suite à ses nombreuses bourdes diplomatiques sous le pseudonyme d'OSS118. Après avoir proposé un tagine, plat originaire du Maroc, à un invité qui venait en fait d'Algérie, rebelote, ou plutôt reboulette, jeudi dernier face à Ibrahim Malouf, le trompettiste libanais. Cette fois, il avait le pays, mais il n'avait pas bien bossé la prononciation.
Et est-ce que vous connaissez, alors c'est pas un mot, mauvais jeu de mots de Mathieu Noël, les ricaca.
En fait, ça se prononce pas comme ça, en fait, en vrai.
Nouvel incident diplomatique. En vue.
C'est de l'arabe, ça se dit ra'at.
Vous pouvez redire
ra'at, ouais.
Ah oui, non, ça, là, oui.
Bonjour, c'est Dipouls.
Bonjour, les amis.
C'est vrai que là, les invités vous lancent par faire des défis. Vous êtes polyglotte, mais pas trop, quoi.
Puis là, je pense que ça va encore être compliqué aujourd'hui. Hein.
Ah bon ?
C'est vrai ?
Ben oui, parce que je me suis plongé un petit peu dans l'histoire de Tété. Vous êtes né.
J'espère que vous plongez dans la bonne histoire, parce que si vous avez eu le faux dossier de presse,
confirmez-moi quand même que vous êtes né à Dakar.
Je confirme, oui, je confirme.
Ah, ouf. À Dakar ou Mali, comme tout le monde le sait, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si vous avez grandi aussi avec la cuisine familiale originaire d'Afrique et du Sénégal ou pas.
pas du tout, parce que j'ai été élevé par ma mère,
voilà,
qui est martiniquaise, et donc j'ai pas eu d'échange avec le Sénégal dans mon enfance. En fait.
Eh bien donc j'ai eu une bonne idée, je n'ai pas fait de plat sénégalais, figurez-vous. Alors en plus, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est très compliqué à faire, c'est une cuisine qui est très riche, mais qui demande surtout aussi des ingrédients qu'on ne trouve pas forcément
facilement. Ouais.
Mais vous avez grandi du côté de Saint-Dizier.
Voilà.
Ouais. Voilà, et donc...
Bien joué, Pouls.
Et voilà, regardez, j'ai un peu bossé ce week-end. Et donc je vous propose, bon, comme on est dans le Grand Est de la France, de vous faire une quiche lorraine.
Là, c'est, là ça arrête son travail, parce que la quiche lorraine, il me l'a déjà fait trois fois. Donc là, c'est facile pour
mais
toi.
Alors, mais attention, non, attention, oui, j'ai deux versions proposées. Vous voyez, la production ne recule devant rien. On vous passe la carte et vous pouvez choisir soit une quiche lorraine traditionnelle, c'est-à-dire un peu calorique, ou alors une version totalement allégée.
Ah.
Qu'est-ce que vous préférez?
Je prends traditionnel.
La traditionnelle, vous êtes gourmand. Ouais. Donc l'idée de la quiche lorraine, en termes d'ingrédients, ce sont des œufs, des lardons, de la crème fraîche et une pâte brisée.
Mais pour une quiche lorraine, c'est une espèce de flan, en fait.
Alors voilà, c'est à peu près ça. Mm-hmm. Donc on va prendre une pâte brisée qu'on va pré-cuire, en faire ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Mm-hmm. Et là, on va vraiment se faire plaisir d'un point de vue calorique. Il fait froid, on peut y aller. Hein. Donc c'est
comme si tu avais attendu les frimaires d'hiver pour faire plaisir d'un point de vue calorique.
Donc c'est trois œufs, mais mon astuce, je rajoute encore deux jaunes pour donner encore un peu de corps à ce qu'on appelle la migaine, c'est-à-dire ce qui constitue la quiche. Des lardons, bien évidemment, qu'on aura très légèrement pré-cuits. De la crème fraîche. Alors là, on en met quelques cuillères. Un petit peu de lait. Voilà, un petit peu de lait.
Entier, demi-crémé.
Entier, bien sûr.
Mais pourquoi rajouter du lait à la crème?
Alors, pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus liquide, quand même. Parce que si on ne met que de la crème, là, franchement, ça devient mangeable. Donc, pour l'alléger un tout petit peu, on va mettre un peu de lait. Donc, on prépare, on peut mettre un petit peu de muscade. Donc, on prépare ce qu'on appelle une migaine, donc cet appareil qu'on va remettre dans notre pâte. Et on est parti pour 30-35 minutes de cuisson dans un four à 180 degrés. Il faut la faire bien épaisse. Parce que la quiche lorraine, c'est bon quand vous avez l'épaisseur et donc un bon moelleux, comme vous dites, ce côté un peu flan. Voilà, ben là vous avez une quiche lorraine totalement traditionnelle. Si vous voulez l'alléger, vous pouvez remplacer la crème et le lait par du fromage blanc à 0%. Ça marche aussi, ça fait quelque chose d'un peu plus digeste.
Oh, mais c'est moins bon.
Mais c'est moins bon, bien évidemment.
C'est
bien
la texture, quoi. C'est
On n'a pas la même texture, mais franchement, je vous rejoins. L'authentique, la vraie, la seule, l'unique.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
La compétition se poursuit pour l'équipée sauvage de Mathieu Noël. Revivez les moments de la semaine passée autour de Mathieu Noël. Et bien on va retrouver à présent Eva Rock, l'humoriste Verino et notre spécialiste ciel et espace Alain Sirou. C'était mercredi sur Europe 1.
Alain Sirou, c'est surtout une faculté inouïe à créer le suspense autour de sa chronique, comme avait pu le constater Elise Moon.
Il s'appelle Pete Conrad et Alan Bean. Ils ont marché sur la Lune, tout simplement, numéro 3 et 4. Mais pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi on s'en souvient pas? Je vous raconterai dans ma chronique. Voilà, c'est le teasing de ma chronique.
Et c'est pour ça que l'émission marche. C'est parce qu'il y a du suspense. La semaine dernière, je me suis dit, merde, personne ne parle d'Apollo 12. Ah ben, merci Europe 1.
Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Fidèle à votre sens du teasing, hier vous m'avez appelé, vous m'avez dit, Matouné, la guerre des étoiles n'est plus une fiction, c'est une réalité. Puis vous avez raccroché derrière. Alors maintenant, on va voir si vous m'avez survendu le truc ou pas.
Non, le projet s'appelle Starlink. Et Starlink, c'est un projet d'Elon Musk qui consiste à déployer 12 000 satellites dans
c'était
les...
C'était pas 48 000 tout à l'heure?
Alors,
on a revu les chiffres.
Tout à l'heure, c'était le teasing.
C'était le teasing, voilà.
En fait, il y a 7 gars qui lancent des avions en papier.
On démarre par 12 000. Et il a fait une demande d'autorisation pour 30 000 de plus, ce qui fait 42.
Okay.
Donc... mais les 12 000 sont actés et ça a démarré puisque ces dernières semaines, on a vu décoller les fusées d'Elon Musk avec à bord 40 satellites à chaque fois, 60 satellites à chaque fois qui sont lancés en grappe. Et les astronomes voient passer dans le ciel.
Est-ce qu'on les voit?
On les voit passer. Bien sûr, on les voit passer.
Oui, il faut quand même ouvrir la fenêtre, les
gars. comme un essaim d'abeilles lumineuses qui traverse le ciel et qui, évidemment, ajoute de la pollution au ciel. Mm-hmm. Et évidemment, les astronomes qui regardent le ciel et qui écoutent avec des radiotélescopes, avec des observatoires, des télescopes normaux, etc., disent, vous imaginez 12 000 satellites dans le ciel, ça veut dire plus de satellites visibles à l'œil nu que d'étoiles visibles à l'œil nu. Mais c'est on n'imagine pas ça. Incroyable. Ça veut dire que si on considère le projet dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y aura dans les années qui viennent 10 fois plus de satellites dans l'espace que ce qui a été lancé depuis le début de la conquête spatiale. Alors, quel est le projet de Musk ?
J'ai le droit à une question con, je vous en prie. Avant que vous développiez. Est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi que certains satellites nous retombent sur le coin de la gueule ?
Clairement. Alors, ça, non. Oui, mais, en, ouais. Mais ça, c'est Véridoli, le risque.
Non,
le
non
risque
parce
moins.
Que ça brûle dans l'atmosphère. Non,
exactement, tout à fait. Ça se détruit dans l'atmosphère.
Alors, deuxième question, est-ce que quand on envoie une nouvelle fusée, elle ne risque pas de cogner un de ces satellites s'il y en a plein autour de
nous ? Non, parce que justement, il y a plusieurs étapes. C'est pas le risque majeur. Le risque majeur, c'est vraiment la pollution lumineuse.
Visuel,
c'est,
ouais.
C'est vraiment ça. C'est... Et puis, évidemment, les débris, si des satellites se heurtent.
Et oui.
Mais
et
le projet...
Ça arrive.
Le projet de Musk, finalement, c'est de fabriquer un réseau Internet à haut débit pour l'ensemble de la Terre. Vous savez, c'est le slogan « Tous connectés ouais. ». 4 milliards de personnes connectées. Derrière ça, ça veut dire 4 milliards de clients supplémentaires pour Internet. Et évidemment, je dirais, Musk se moque totalement des scientifiques. C'est pas son problème, le ciel. Il considère l'espace comme un nouveau Far West sans règles. Et puis, effectivement, je dirais qu'il est aussi méprisant. C'est un vrai prédateur, en ce sens-là, parce que son terrain de chasse, c'est l'environnement spatial qui appartient à tout le monde. Ses proies, c'est nous, les futurs connectés. Ses armes, c'est le mensonge, la propagande,
mais
c'est la rêve.
Mais vous détestez Elon Musk, là.
Mais parce qu'en fait, on est complaisant, je trouve qu'on est complaisant vis-à-vis de lui. On dit, c'est un type génial, il est en train de coloniser l'espace. Sauf que cet espace, c'est comme si vous étiez sur l'océan et qu'aucun bateau n'est coulé jamais. Et que tous les pirates ont laissé, je dirais, les bateaux
qui flottent comme ça.
Flotter comme ça.
Donc, des épaves,
on peut dire, ça suffit. Et là, pour le compte, les astronomes se sont fâchés, ont ouvert des pétitions, on peut les signer.
Mais les
en
astronomes,
disant,
ils ne sont pas milliardaires, comment ils vont réagir face à Elon Musk? Il a beaucoup plus de moyens que les astronomes.
Ils vont perdre, comme des merdes. C'est vrai, c'est dramatique.
On demande qu'il y ait des règles. On demande qu'il y ait des règles et que tout le monde les respecte parce que Musk, il n'est pas le seul.
Mais
il
n'y a pas
de
règles. L'ONU n'a pas fixé des règles.
Ben, non, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Il y en a quelques-unes, mais surtout, il n'y a pas de gendarmes.
Ouais,
c'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez dans
respecter.
L'espace pour l'instant. Et il n'est pas le seul. Hier, a décollé un satellite avec des petites billes dans l'espace dont l'objectif à bord des satellites est de fabriquer des étoiles filantes artificielles pour votre anniversaire.
Quoi
on pourrait... Oui, oui, absolument.
C'est votre anniversaire.
Un peu très créatif.
Exactement. Exactement. Quelqu'un pourrait s'offrir pour son anniversaire à ses copains. Pour lui offrir une pluie étoile filante avec des petites billes qui seraient lancées par ce satellite. Il y a un autre projet qui s'appelle Star Rocket qui consiste avec des cubes satellites.
D'envoyer Eva Rock dans les
Star Rocket. C'est l'objectif. Ça serait une bonne idée. Là, je dis oui à Elon.
De fabriquer des messages publicitaires. Vous voyez, le spectacle de Verino. Hop, on
jamais je ferai ça. Voilà. Vous m'entendez
jamais. Non, mais ça veut dire que pour c'est l'instant, fou. C'est le Far West. Et ouais. On dit, ça suffit. Arrêtons d'être complaisants. Et surtout, arrêtons de considérer que Musk est un génie. C'est pas vrai. C'est un prédateur. C'est quelqu'un qui s'intéresse à son business.
Oui, pour lui, c'est plus un businessman qu'un génie.
Ben oui, et puis surtout, il faut arrêter. Je veux dire, il attaque Arianespace, Ariane, qui nous permet d'avoir un accès indépendant à l'espace. Je pense qu'il faut, à un moment donné, être lucide et considérer que le ciel fait partie d'un environnement naturel qu'il faut protéger, comme le reste du monde.
Il a réussi à énerver
oui,
Alain Sirou, Elon
rare.
Musk.
Stop non, franchement. Aux conneries, Elon Musk, si vous écoutez Europe 1, c'était le message d'Alain Sirou.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Nous sommes toujours avec Mathieu Noël, Eva Rock et maintenant quelqu'un qui est venu il n'y a pas si longtemps dans l'équipe est sauvage, le navigateur François Cabart.
Il vient de traverser l'Atlantique, aller-retour, après avoir frôlé les rivages brésiliens et africains, voyage à la fois excitant et éprouvant, à travers des paysages sauvages et indomptés. Ils sont peu à avoir vécu ça. Il y a les grands navigateurs et l'esthéticienne d'Eva Rock, Josie Magellan.
Nous avancions lentement sur une région luxuriante, une jungle.
Mais vous êtes vraiment mais
magnifique.
J'allais dire un gros mot, mais vous le méritez.
Inquiétant.
Magnifique et inquiétante. On peut saluer le courage de Josie Magellan et celui encore plus important peut-être de ce navigateur qui a fini deuxième de la première Brest Atlantique. Bonjour François Gabart.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous êtes de retour à la maison, vous êtes sur la terre ferme là ?
Exactement, à la maison, donc à Port-la-Forêt, dans le sud Finistère. Et le trimaran massif a été sorti de l'eau cette nuit, donc voilà, tout le monde est au sec, on va dire.
Et il a été sorti de l'eau dans quel état, ce trimaran massif ? Je crois que vous avez eu pas mal d'avaries.
Le bateau va plutôt bien, c'est les appendices en fait qui ont,
souffert, c'est souvent ça,
les foils, les safrans. Le bateau, sinon le reste du bateau est intègre, en pleine forme.
Alors vous finissez deuxième, ce qui est bien, sauf quand on s'appelle François Gabart.
c'est sûr que c'est toujours, on est toujours là pour essayer de gagner, mais... Bah là, on a eu pas mal de petits soucis techniques, des chocs avec des ovnis.
Des chocs avec des quoi, pardon, François Gabart ?
Des ovnis. Des objets flottants non identifiés.
Waouh ! Ah oui, je ne savais pas que c'était un terme, ça. D'accord.
On a tapé, on ne sait pas ce que c'est. Ça, malheureusement, et je ne peux pas l'exclure, ça peut être des animaux marins.
Ah ouais.
C'est aussi peut-être des containers, des billes de bois.
Et à cette vitesse-là, forcément.
Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que les chocs étaient super violents. Quand ça tape vraiment super fort. Et les dégâts qu'on a eus, c'était hyper important. Il y a deux safrans qui ont complètement ont disparu, quoi. Enfin, qui ont été arrachés du bateau. Donc voilà, c'était des chocs en tout cas qui étaient super violents.
C'est quoi la première chose que vous avez faite en retrouvant la terre ferme? Le truc qui vous manque le plus quand vous revenez d'une traversée aussi longue?
Bah, d'un point de vue, le confort d'une bonne douche, d'un bon repas dans un endroit qui ne bouge pas trop, c'est quand même assez confortable. Faut pas le négliger quand même. C'est vrai que le confort de la vie terrestre est assez, assez extraordinaire, même ce qu'on vit sur les bateaux, c'est magnifique. C'est toujours agréable de profiter du chauffage, de l'électricité, de l'eau courante.
Le marin de la bande, Jean-Philippe Ballas, a une question pour vous.
Après un mois en mer, est-ce qu'on a le mal de terre?
Ah oui, c'est vrai ça.
Alors non, pas du tout. Alors moi, j'ai une chance de ne pas avoir le mal de mer depuis que je suis tout petit. Donc mon oreille interne doit bien marcher, doit bien fonctionner.
Et donc pas le mal de terre non plus.
Et donc voilà, quand je reviens à terre, j'ai pas le mal de terre non plus. Néanmoins, en effet, des gens sensibles peut-être au mal de mer parlent un peu d'un tunnel, mais ça dure, je pense, quelques secondes, quelques minutes. Autant l'être humain est parfois pas adapté à la vie sur l'eau et peut mettre quelques heures ou quelques jours pour s'amariner, autant je pense les plus mauvais marins mettraient que quelques secondes pour se réhabituer à la vie terrestre. Pour ce mot, on est plutôt bien adapté à la vie sur la Terre.
Je vous confirme, François Gabart, qu'il y a des gens qui sont inadaptés à la vie en mer, comme Eva Rock, qui a vécu sur une péniche pendant quelques jours qui a eu le mal de terre pendant des mois.
Je vais très bien dès que je suis sur un bateau, mais dès que je mets les pieds sur terre, je ne suis pas faite pour la Terre, concrètement.
Ça dure
des heures.
Elle préfère l'amour en mer.
Voilà. Ça aussi. Un grand merci à vous, François Gabart, de nous avoir donné des nouvelles tout au long de votre course. Merci pour les messages et les interventions dans l'équipe Sauvage. Et surtout, reposez-vous bien.
Ça marche, merci beaucoup.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe Sauvage.
Place à la seconde partie de cette compilation des moments passés en compagnie de Mathieu Noël cette semaine. Mathieu Noël en chef d'orchestre de cette équipe Sauvage qui œuvre, vous le savez, chaque après-midi pour nous permettre d'apprendre tout en se divertissant. Toujours au rendez-vous, Eva Rock, les journalistes compétiteurs d'Europe 1. Il y aura par exemple Laure d'Autriche. Elle s'est intéressée au mode de déplacement des fourmis. Et ça pourrait d'ailleurs nous intéresser pour éviter les embouteillages. Jean-Philippe Ballas racontera l'histoire d'une chanson de Noël, mais pas n'importe laquelle, hein, celle qui a rapporté le plus d'argent au monde. Et puisque cette saison, eh bien, on va vous parler des sapins de Noël avec Anne Le Gall. C'était vendredi dernier en présence de l'acteur Michel Blanc.
Michel Blanc, c'est une question que je me suis toujours posée, que peut-être beaucoup d'auditeurs se posent. On présente souvent la bande du Splendide comme un groupe homogène, mais au fait, dans cette bande, de qui êtes-vous le plus proche? Surtout avec le temps, il y a bien des affinités.
Attendez, vous voulez me fâcher avec les autres?
Non, mais vous avez peut-être quelqu'un qui est votre meilleur ami ou un pote que vous voyez plus souvent, avec qui vous faites plus souvent des dîners.
Je vois très souvent. Alors, je l'ai vu, il est passé dans un studio pendant que je faisais l'émission avant-hier. C'est Gérard Jugnot.
Vous êtes proche.
Et Josiane, ouais. Oui, aussi. Alors on se voit, on a des carrières heureusement qui continuent, donc on n'est pas forcément libre tout le temps au même moment. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas ami de l'ermite, de Marianne, tout ça, mais il faut qu'il y ait une occasion.
Pour vous
et
voir.
Puis comme mon camarade Clavier vit en Belgique maintenant, j'étais allé le voir à Londres quand même, j'ai fait des efforts.
Voilà. Il est toujours dans d'autres pays.
Mais il m'a brexité.
Voilà. Une question qu'on se pose aussi entre amis, on fait tous, quasiment en France, dans tous les groupes d'amis, on fait une soirée et les bronzés font du ski chaque année.
Ouais.
Et les bronzés eux-mêmes font pas de soirée bronzés font du ski.
Grâce à Dieu, non. Et le jour où on en fera une, ce sera dans la maison de retraite.
Ça fera une belle scène de film, les bronzés regardant les bronzés dans une maison de retraite. Michel Blanc continue d'évoquer...
C'est complètement con, je comprends pas ce qui les fait rire.
On continue d'évoquer votre carrière et ce nouveau film Docteur en salle mercredi prochain. Mais la compétition continue, elle doit continuer. Car nous vivons dans un monde compétitif. Profit, rentabilité, compétitivité, voilà les mots dont on nous matraque à longueur de journée. À force, on est tous contaminés, on devient même agressifs et butés. Tous sauf Anne Le Gall. Vous aviez été élu, Michel Blanc, lors d'un sketch champion de France de gentillesse 1983.
C'est vrai.
Je vous présente la championne de gentillesse 2019. Une gentillesse qui parfois lui porte préjudice.
Quand je pense à tous les mecs que je me suis tapé uniquement pour pas casser l'ambiance.
Oui, on les salue au passage, Anne Le Gall, et on embrasse votre mari
c'est
actuel.
Quoi.
Noël approche et une question se pose pour tous ceux qui, comme vous, ont une fibre écolo. D'où viennent tous ces sapins et peut-on acheter un sapin sans faire bobo à la planète?
Voilà, la question se pose parce que pour 7 Français sur 10, le sapin, c'est l'accessoire essentiel. D'ailleurs, oui. D'ici dimanche, il y a la moitié des adeptes de cette tradition qui auront acheté le sapin, qui l'auront décoré. Et d'où viennent d'ailleurs ces arbres coupés d'1,50 m qu'on retrouve à la même époque tous les ans dans les magasins? Ils viennent d'où? Alors, j'ai posé la question à Adèle, Anna et Joséphine qui ont entre 9 et 11 ans. Et pour eux, les sapins, tout simplement, viennent des forêts.
Dans toutes les forêts, enfin, ils sont coupés. La plupart du temps, c'est quand ils sont de plus en plus vieux. Du coup, bah, juste pour fêter une fête, nous, on coupe des arbres.
Est-ce qu'on peut les replanter?
Impossible.
Parce que c'est on n'a pas coupé à la base, pas aux racines.
Bah, nous, on a un sapin artificiel. C'est bien aussi, comme ça, ça fait pas couper d'arbres.
Alors en réalité, ils viennent pas des forêts, les sapins, ils viennent de plantations qu'on trouve en général dans le Morvan essentiellement ou en Bretagne. Voilà, ils sont cultivés.
Ah mais donc
cultivés.
Ça c'est beaucoup de sapins sont français.
Alors oui, 70% du marché, c'est du sapin français. C'est déjà une bonne nouvelle. On les coupe quand ils ont entre 5 et 10 ans. On leur met des guirlandes pendant 3 semaines, voilà. Et puis après, c'est vrai, on les coupe et on les jette. Alors, il y a de plus en plus de sapins qui sont vendus en pot avec leurs racines. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est une vente sur 10 aujourd'hui.
Et ça, c'est bien.
C'est pas mal. Le but, donc, c'est de les replanter après dans un jardin quand on l'a.
Oui,
sauf que ce n'est pas sûr de fonctionner à 100%, parce qu'en général, quand il y a eu 3 semaines dans un salon surchauffé, il y a un choc climatique pour le sapin, il n'est pas sûr de reprendre ensuite.
Il faut... y a aussi un choc pour la concierge quand vous le faites dans le... quand vous le plantez dans l'escalier. Mais enfin, bon,
c'est du vécu.
Oui, il a vendu le Steinway, mais par contre, il l'a remplacé par un sapin. La concierge est ravie. Il faut faire attention si vous plantez le sapin. Moi, je l'ai fait. Il grandit
ah
beaucoup.
Oui,
hein.
Bah...
Donc, il faut faire très attention quand même. Il faut prévoir un emplacement.
On peut le réutiliser d'une année sur l'autre, mais il y a une limite quand même. Alors, la question, c'est quid du sapin artificiel finalement?
Très bonne question, Anne Le Gall.
Parce que
j'ai franchi le pas cette
ça.
Année.
C'est une belle saloperie.
Ah, c'est une saloperie?
Alors,
c'est moche.
D'abord, c'est moche. Ensuite, je suppose que c'est du plastique.
Alors, c'est du plastique.
Ah, je vous invite à la maison, les amis. J'ai un sapin artificiel du plus bel effet.
Alors, est-ce écolo? C'est la question. Eh bien, c'est écolo, mais au bout de 20 ans d'utilisation.
Et moi, je vois sur le long terme, vous voyez.
Voilà, mais il faudra le garder 20 ans, votre sapin. Et dans ce cas-là, effectivement, le sapin aura remboursé sa dette carbone à la planète, si on veut, parce qu'en fait, il faut compter...
C'est ma dette carbone.
Il faut compter toutes les matières qui ont été utilisées pour faire le plastique. Souvent, ils viennent d'Asie, donc il faut aussi compter le transport. Donc, en dessous de 20 ans, vaut mieux un sapin naturel parce qu'au moins, on le coupe, certes, mais quand il pousse, il capte du carbone.
Il y a aussi le porte-manteau qui est très bien, hein, une fois décoré. Et vous pouvez le garder et vous le recycler pour accrocher des manteaux après pendant toute l'année.
D'année en année. C'était le petit conseil futé de Michel Blanc.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Roque, bien sûr, et tous ses invités de la semaine passée. Alors jeudi, ce sont les acteurs Michael Youn et Sylvie Testuc qui étaient venus nous présenter leur nouveau film Rendez-vous chez les Malawas. Une comédie familiale qui raconte les péripéties de 4 stars dans une tribu africaine pour une émission de télé. Et ils ont d'ailleurs dévoilé quelques anecdotes à la clé.
Avec nous ce soir, Michael Youn et Sylvie Testu.
Ils sont où mes amis?
Oh, je sais pas, on les trouvera, t'inquiète. Michael et Sylvie qui seront à l'affiche de la comédie de Noël le 25 décembre. Rendez-vous chez les Malawas. Mais j'ai envie qu'on se projette déjà dans l'avenir. Michael, votre prochain film en tant que réalisateur s'appelle Divorce Club.
Oui.
Ça sort en mars 2020. Rien que le nom, ça sonne bien. Vous nous pitchez rapidement?
C'est deux potes qui se retrouvent 20 ans après avoir fait leurs études ensemble. Et tous les deux, ils ont divorcé. Et ils décident, pour en finir avec les affres de la séparation, de créer un Divorce Club pour aider tous ceux qui galèrent.
Et ça marche ou il galère encore plus?
Ça marche pas mal.
Sylvie, vous aviez réalisé La vie d'une autre en 2012 avec Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Le film avait d'ailleurs assez bien marché. Puis vous avez eu un projet qui malheureusement n'a pas vu le jour. Vous en avez tiré un livre qui a été ensuite adapté au cinéma. C'est une l'expérience de réalisatrice. Vous allez la revivre bientôt.
Bah, j'aimerais bien, sauf que quand vous n'arrivez pas à monter un projet, c'est tellement déprimant. Ouais, aller chercher l'argent que bon, finalement j'ai écrit des bouquins, ça coûte moins cher, j'écris ce que je veux, on verra. Il faut que j'ai une nouvelle idée et que ça se fasse plus facilement.
Une question pour vous, Michael Youn, est-ce qu'on va vous voir bientôt dans un nouveau one-man show?
Je crois pas. Non, je crois pas.
Faut jamais dire Fontaine, Michael.
La scène, c'est assez violent. Et une fois qu'on s'est arrêté, en fait, le public me manque, mais je sais pas si je suis prêt à refranchir le pas de nouveau. On dit pas refranchir le pas, mais c'est pas grave.
Mais ici, avec les baroques, sous le contrôle des baroques, voilà, notre maître Capello.
C'est un petit peu des phrases Ikea, vous les montez chez vous. En revanche, je vais refaire de la télévision.
Ah, vous allez refaire de la télévision dans quoi?
Dans quoi? Dans la seule chose que je sais faire, de la gaudriole.
De la bonne gaudriole.
En deuxième partie de soirée ou très tôt le matin?
Non. Maintenant, j'ai pris en grade, comme Mathieu Noël.
En prime time. Et quoi, un late show? Qu'est-ce que ça va être?
Non, ça sera, comment vous dire, c'est la même chose qu'avant, sauf que je vais mettre une veste. Je serai habillé cette fois-ci.
Pas de
fois
pantalon, juste la
pas
veste.
De pantalon. Non.
Évidemment, on garde la marque Michael.
Mais c'est pour, c'est pour 2020 ou c'est pour beaucoup plus tard ou...
C'est pour 2020.
D'accord. Premier semestre.
Et c'est pour quelle chaîne?
Voilà votre avis.
M6.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Je me tourne vers nos invités, ou plutôt seulement vers Michael Youn, vu que Sylvie Testu, vous avez déjà eu droit à votre micro trop trash la dernière fois. Voici le vôtre, Michael. Alors, c'est comme un micro-trottoir, mais non censuré.
Ok. Ouais. Oui, je connais Michael Youn. Ouais, je connais.
Avant, je trouvais ça plutôt immature. Mais bon, là, ça va.
J'aimais bien quand j'étais ado.
C'est un phénomène.
Ouais. Tu connais pas Michael Youn, dis donc, je sais pas, il vient d'où celui-là, hein.
Michael Youn, il est sympa, vraiment.
Bah, déjà, il sait pas s'habiller, tout le temps tout nu.
Et une cagoule tout le temps sur la tête.
Ah ouais, moi, il me fait très très rire, très très drôle.
Il s'est mis en string dans la vidéo.
Ouais, je trouve qu'il gagne en crédibilité par rapport à avant.
C'est un père de famille maintenant, je pense qu'il s'est assagi. Avec l'âge, on a sa jeunesse, on s'éclate et puis après on prend, voilà.
Il a fait une série sur TF1, Les Bracelets Rouges, je m'en souviens, j'ai regardé. C'était très émouvant.
Parle à maman Sylvie, si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi.
Il a fait un film aussi, je crois, avec Polanski.
Fatal Bazooka. Il fait des parodies de chansons. Enfin, des chansons, il se moque un peu des rappeurs.
Il me donne une impression d'être sincère. Il est assez à l'écoute des autres.
S'il pourrait faire une autre chanson, en se moquant encore plus des rappeurs. Voilà.
C'était plutôt super sympa.
Non, c'était plutôt super sympa parce que vous êtes super sympa, Michael. Tout simplement.
Mais malheureusement, je n'ai pas tourné avec Roman Polanski.
Non, mais ça manque dans votre
J'ai juste eu la bonne idée de dire à son avant-première que Roman Polanski faisait quand même des meilleurs films que Guy Georges. Et ça m'a valu une bonne petite volée de bois vert sur Twitter.
Et ça va recommencer. De l'humour.
Michael Youn, on parlait tout à l'heure de votre participation à une émission extrême avec Mike Horn. Moi, je suis tombé sur des interviews de vous au retour de cette émission. Mike Horn, c'était votre meilleur ami, c'était votre dieu.
Ça m'a un peu bouleversé, cette aventure. Malheureusement, ça a pas duré assez longtemps dans ma vie.
J'aurais vous vouliez changer des choses, vous vouliez emmener votre famille en vacances.
J'aurais aimé que ça laisse plus de traces. Et puis voilà, Europe 1, ça vous rattrape à un moment. Voilà. Mais ça a dû changer quand même des choses dans ma tête, ouais. Ouais, je pense.
Vous n'avez plus l'air très sûr. Mais vous voyez toujours Mike Horn, vous êtes toujours amis.
On s'est vu deux, trois fois. Après, c'est quand même un mec, il est oui, jamais
il est,
là.
Il est vraiment à Paris.
Il n'a pas de téléphone portable. Enfin, c'est un gars, il est sur un bateau quand il t'envoie au milieu du Pacifique, quand il t'envoie un texto.
Ils forment une belle équipe, un beau couple, murmure la presse people. Sylvie Testu et Michael Youn passent l'après-midi sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
L'équipe est sauvage pour faire le plein d'infos, retrouver les invités aussi de Mathieu Noël durant la semaine passée. Mais l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition pour nos journalistes compétiteurs. On va découvrir maintenant le sujet de Jean-Philippe Ballas. C'était lundi en présence du chanteur Tété qui était venu nous parler de la réédition de son album Fautantique.
L'humeur magique, le spin du concert.
Le spleen du faussaire. Votre dernier album ressort augmenté de 3 titres. Le succès est au rendez-vous. On le disait tout à l'heure, je crois 6 millions, ça a dû augmenter encore depuis tout à l'heure. Ouais. 6 millions de streams en 2019, rien que sur Spotify. On continue d'en parler, mais l'heure est venue d'écouter notre dernier journaliste en compétition aujourd'hui. Et lui aussi marche sur l'eau en ce moment. Il a frôlé le grand chelem la dernière fois avec 5 points d'un coup. Jean-Philippe Ballas finit 2019 en fanfare. Mais comme vous, il va y rester simple, sa devise...
Surtout, ne pas se prendre pour une icône.
Mon Dieu ! Bien sûr, Jean-Philippe, en ce 9 décembre, vous avez décidé, et je tiens à préciser que c'est une initiative unilatérale, de nous diffuser déjà... une musique qu'on va beaucoup entendre dans les semaines qui viennent.
On va faire un peu d'histoire. 1er novembre 1994, journée qui allait à jamais marquer l'histoire de la musique. Mariah Carey sort ce single.
94, ça ne rajeunit pas.
Coup de vieux, là.
Extrait d'un album de chant de Noël à l'époque, parce que c'est une tradition chez les Américains. Tout artiste digne de ce nom se doit de sortir un jour un disque de Noël, c'est comme ça, avec des reprises le plus souvent, mais aussi parfois donc des chansons originales. Et c'est le cas de All I Want for Christmas Is You, écrit par Mariah Carey. Oui, assez rapidement à l'époque d'ailleurs. Elle voulait un morceau un peu festif.
C'est elle qui écrit Mariah Carey. Absolument. Attends, je découvre quelque chose moi. Elle écrit ses chansons.
C'est un morceau alors très simple en apparence, en sol majeur, avec un tempo assez élevé, avec des chœurs, avec des clochettes. Il y a toute la magie de Noël et c'est une mélodie très catchy, comme disent les anglo-saxons, parce que c'est vrai qu'on la retient tout de suite. C'est une chanson qu'on a l'impression presque de déjà connaître.
Moi, je pensais que c'était une reprise, quasiment.
Et non. Et alors, l'intérêt, justement, des chansons de Noël, c'est que si vous passez à côté, bah, c'est pas grave, parce qu'elle revient tous les ans, la chanson. C'est ainsi que Mariah Carey...
C'est la martingale du musicien.
Elle va tutoyer les cimes. Jamais une chanson de Noël n'a jamais rapporté autant d'argent, autant de droits d'auteur. Je vous donne deux indicateurs, très simples. All I Want for Christmas, c'est la 19e chanson la plus téléchargée du 20e siècle, la 19e quand même. Ouais. Et c'est la plus écoutée sur Spotify, par exemple. Spotify qui donne ce chiffre, près de 11 millions de streams rien qu'en décembre de l'année dernière. Ça vous fixe quand même une artiste. Et puis, il faut parler aussi, évidemment, du film Love Actually, qui était sorti en 2003. Ouais. Et dans la BO du film, il y avait All I Want for Christmas.
Donc, il l'avait relancé encore.
Et oui. Et alors, comme cette année, ce sont les 25 ans de cette chanson, bah, Maria, elle se dit que, allez, c'est une bonne occasion de marquer le coup. Alors, vous pouvez aller notamment sur son compte Instagram. C'est assez drôle. Vous verrez, il y a des versions collector de son album de Noël en vinyle. Et en cassette.
En cassette.
En 2019, elle ressort les cassettes, alors vertes et rouges, pour donner un peu l'esprit de Noël. Et il y a même un documentaire, ça j'ai vu ça là, il y a quelques jours sur Amazon, un documentaire qui sort et qui raconte l'histoire de cette chanson. J'adore le titre. Mariah is Christmas. Mariah et Noël, carrément, dégage Santa Claus. Ça vous donne le temps. Bon, la rançon de la gloire, c'est que évidemment, au bout d'un moment, on n'en peut plus de cette chanson. Dans un récent sondage, les Anglais ont mis Mariah Carey en tête des petits airs de Noël qu'il ne supporte plus. Moi, je l'aime bien, malgré tout, cette chanson. Et pour rafraîchir un petit peu l'ambiance, je vous ai trouvé quelques versions un peu inédites, un peu inattendues sur le net. Il y a notamment une version funk que moi, j'aime beaucoup. I don't want a lot for Christmas.
There is just one thing I need. C'est pas mal. Ah, c'est pas Lake Dive, un truc comme ça?
C'est Funk Raptor. Ah, mais j'aime beaucoup, c'est très réussi.
C'est pointu, Jean-Philippe. Hein. Funk Raptor, même eux-mêmes, ils savent pas qu'ils existent. C'est incroyable.
Non, mais ça chante super.
C'est vachement bien.
Il faut chercher sur les internets. Alors, vous avez aussi une version française, elle s'appelle Chloé.
Je te veux juste pour moi. Oui, bien plus que tu le crois.
Si jamais vous êtes nul en anglais.
Elle a un petit air de cœur de pirate.
Ouais, ce que j'allais dire, j'aime une diction.
On va encore en bouffer ce Noël, c'est ça que vous nous dites.
Et alors, une version métal, vous allez me dire, c'est pas possible.
Oh, non.
Si, c'est possible.
Ouais, j'ai une requête. Tété, vous voulez pas reprendre les One for Christmas qu'on soit dans quelque chose de beau.
En fait, je suis en train de me raviser parce que demain, pour le concert privé Europe 1, on m'a demandé de préparer une chanson de Noël.
Ah,
et oui. Et j'ai tout en dessous, tout parce que j'ai pas pris celle-là. Mais je vais...
Non, parce que
je vais appeler Émilie. Je vais dire, on change tout.
Émilie Mazoyer, vous serez demain soir.
Non, parce que j'ai vu que Tété avait lancé un mini sondage sur les internets en demandant à ses fans quelle chanson je reprends. Il n'y avait pas All I Want for Christmas.
Non.
Vous avez encore le temps de changer d'avis.
Ce sera de 20h à 22h chez Émilie Mazoyer, notre spécialiste musique. Concert privé en direct du studio Belmar avec vous, Tété, et avec Brigitte.
Et je précise que le type donc très énervé qui chantait la reprise All I Want, c'était Jonathan Young. Mais ma version la préférée, elle a été enregistrée avec des instruments de musique pour enfants. Oui, il y a quelques années, avec la voix de Mariah Carey. C'était dans l'émission de Jimmy Fallon aux États-Unis, avec son groupe The Roots, qui reprend avec des petits xylos, avec des petits gazous, et ça donne ça. C'est pas mal, hein?
Ça sonne bien, franchement, c'est sympa.
Et il y a autre chose, si vous traînez un peu sur le net, le Carpool Karaoke avec Mariah Carey, où elle reprend cette chanson, est absolument génial aussi. Allez-y.
Dire qu'au début de l'émission, on disait qu'il fallait pas trop traîner sur Internet avec vous,
et
les copains.
Oui, pardon.
On va y passer l'après-midi.
Enfin, on est content d'avoir donné un petit peu de droit d'auteur à Mariah Carey.
Oui, qu'elle en avait besoin. Mais vous savez, ça consomme un yacht. Hein, c'est des grosses turbines. Tété, vous êtes une référence en matière de guitare. Et j'ai lu, alors je sais pas encore avec cette histoire de bon dossier de presse et faux dossier de presse, il paraît que vous êtes un autodidacte. Vous avez jamais pris de cours de guitare?
J'en ai pas au sens où on l'entend, non. Ouais, j'ai joué du violon enfant à 9 ans pendant un an. J'ai arrêté très vite. Je lis pas le solfège, donc j'ai tout appris à l'oreille.
Et comment vous faites pour composer un album si vous lisez pas le solfège, quand vous écrivez pour d'autres, par exemple?
On est obligé d'avoir un dictaphone.
Ah ouais.
Et si j'enregistre pas mon idée là, si je l'oublie,
vous la perdez.
C'est perdu. Mais
Mais il y a, enfin, il y a plein de gens, je veux dire, qui ouais, ouais,
mais
c'est
la
mais par contre, on parlait d'internet qui est décidément incontournable. Depuis 5-6 ans, je me suis remis à bosser, c'est-à-dire aller sur YouTube. Il y a plein de types qui font des tutoriels fabuleux. Et qui vous disent, bah voilà, tel type de musique, ça se joue comme ça, tel type de solo sur telle note, etc. Et on va chercher ce qu'on appelle des plans, quoi. Et puis on essaie d'après de s'en resservir dans ce qu'on fait.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mercredi, Mathieu Noël recevait un humoriste repéré il y a une dizaine d'années hein, chez Laurent Ruquier dans l'émission On ne demande qu'à en rire et qui possède sa propre plateforme de vidéo à l'allemande. Il est aussi en spectacle et en tournée en France. En 2020, il s'agit de Verino.
Cette semaine, j'ai fait bugger des enfants. C'était Halloween, donc je peux te dire, je me suis fait plaisir. Les gamins qui viennent sonner à la porte, des bonbons ou un sort ? Et ils te tendent le sachet comme ça. Tu sens bien qu'ils n'ont pas prévu autre chose que des bonbons comme réponse. Moi j'ai répondu, je fais un sort. Le gamin il a bugué. Franchement, ça fait deux jours, je pense qu'il est encore devant chez moi. Du coup, j'avais préparé mes enfants, moi. Ils sont allés sonner chez le voisin. Des bonbons ou un sort ? Il m'a dit un sort. Ok. Ta mère suce des bites. Non.
Alors, Verino, les enfants sont une source d'inspiration intarissable pour vous. Vous en avez trois.
J'en ai trois. Donc, ouais. À chaque fois que je suis en mal d'inspiration,
vous allez
les
voir. Vous avez commencé en testant vos vannes sur les. Vous n'aviez pas d'enfants à l'époque, vous faisiez des babysitting et sur les enfants, c'est vrai ?
C'est vrai.
Et vous leur faisiez des vannes sur l'actu ?
Attendez, d'abord, je vais être surpris par cette information que vous avez, je ne sais pas d'où, mais mes félicitations.
C'est Évaroc qui, soi-disant, vous connaît, qui me l'a filé.
Je ne savais pas dire.
Mais oui, c'est vrai, je testais. Mais on parle de 2005, tu vois, à l'époque où vraiment je démarrais tout petit et puis je gardais des enfants tous les soirs. Il fallait que je répète. Et donc, le moyen, c'était de répéter devant ces enfants-là qui, eux, voyaient le spectacle. Et puis moi, ça me permettait de gagner un peu d'argent puisque à l'époque, c'était pas les blagues qui me faisaient vivre. Et de tester mes vannes en même temps, quoi.
Vous parlez de ce qui vous fait vivre. Vous vivez bien aujourd'hui ?
Ouais, c'est cool.
Ça gagne très très bien sa vie, un humoriste qui cartonne sur YouTube.
C'est pas YouTube
sur qui
remplit ses de l'argent, mais c'est un petit peu tout. C'est-à-dire que la tournée, les dates à Paris, la production aussi, je produis Tania Dutel. Donc il y a plein d'activités qui petit à petit, mises bout à bout, font que j'ai de quoi nourrir trois enfants. Quoi. C'est une très bonne nouvelle.
Il y a un peu cette image de l'artiste en tournée qui n'a pas de vie de famille parce qu'il sacrifie tout à son art.
Non,
on voit très bien avec vous que justement vous êtes l'exemple type du fait qu'on peut tout concilier. Vous êtes un père, j'imagine.
Alors, par
présent.
Contre, je suis au taquet. Hein. Ouais, je suis très présent.
Les journées sont bien remplies.
Les journées sont très très remplies. Je suis vraiment au max de ce que je peux faire. Mais priorité aux enfants, ça c'est toujours c'est la base, quoi, parce que je sais qu'un jour ils m'en voudront, donc j'essaie de faire en sorte qu'ils aient le moins de raisons possible. Et puis ensuite, surtout la création, pour moi c'est quelque chose, c'est mon passe-temps, quoi. C'est le truc avec lequel je m'amuse. Donc alors que les enfants, pas du tout. On dirait que alors que les enfants, c'est vraiment le côté relou. Donc je passe du temps avec les enfants, évidemment en priorité, puis je travaille beaucoup histoire de pas leur en vouloir. C'est ça aussi, tu sais, un jour les regarder en te disant c'est vraiment de votre faute à vous si j'ai raté ma carrière, je veux pas arriver à ça.
Vous voyez Eva, on peut avoir une vie professionnelle réussie et avoir une vie tout court. C'est ce que
d'accord.
Je vous dis tout le temps.
Ouais.
Contrairement
continuez,
à l'exemple
Eva.
Déplorable que je donne ici chaque jour, humour et bienveillance peuvent faire bon ménage. Verino passe l'après-midi sur Europe.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Quand elle est née, dans l'arrière-salle enfumée d'une échoppe à Soca du Vieux-Nice, sa mère, Geneviève Rock, a tout de suite su qu'elle serait spéciale. Est-ce d'ailleurs parce qu'à défaut de l'ange propre, son père l'a enveloppée dans un vieil exemplaire de Nice Matin, Eva devait choisir plus tard la carrière journalistique avec le succès qu'on sait. En quelques années, elle se forge alors un surnom, The Brain. En cause, une vivacité intellectuelle hors norme. Comme elle nous le démontrait chaque matin la saison dernière dans la petite matinale.
Est-ce que vous savez ce que c'est la sonologie ?
Un rapport avec les sons ?
Oui, exactement.
Verino, vous tremblez et c'est bien compréhensible. Vous vous apprêtez à défier The Brain.
J'aimerais pas être à ta place.
Voici notre quiz.
Me fatigue.
Alors Verino, comme vous êtes un des humoristes français les plus connectés avec une vidéo insolite postée une fois par semaine sur votre chaîne YouTube qui bat des records tous les samedis, c'est pourquoi nous allons faire un vrai faux sur les infos les plus improbables trouvées sur Internet. Ça va parler de tout et surtout, avouons-le, de n'importe quoi. Vous jouez contre Évaroc, chaque bonne réponse vaut un point, c'est parti. Évaroc, en 1995, on a décidé de décorer tous les poilus de la Première Guerre mondiale. Parmi les 1355 noms, 3 sont venus à la remise des médailles avec leur père. Vrai ou faux ?
Non, c'est pas possible. Non.
Combien de temps il vous a fallu pour répondre à cette question ?
Parce que je trouvais que... Non mais vous êtes tellement retors que des fois je me dis mais il y a un truc...
Le mot retors encore est un euphémisme.
Oui.
Ça s'est passé faux.
Oui, bah oui, il faut.
J'ai répondu pour vous tellement c'était. Ça
non,
s'est passé en 1995. Ils ne sont pas venus avec leur père. Par contre, trois d'entre eux sont morts d'une crise cardiaque en apprenant qu'ils allaient être décorés.
Oh, les pauvres.
C'était effectivement, c'était pas très rieur comme vous,
les amis. Allez.
Verino, dans le sud de la Chine, dans la province du Guangdong.
Ah, ma spécialité. Comme par hasard.
Deux villes distantes d'environ 230 km s'appellent Tok Tok. Et qui est là? Vrai ou faux?
Oh, j'aimerais tellement. Attends, pourquoi tu me dis 230 km? Quel est l'intérêt qu'elle soit? Moi, je voudrais vraiment qu'elle soit à 20 mètres l'une de l'autre.
C'est vrai que ça serait encore
toc,
mieux.
Toc toc, et qui est là? Comme ça, quand tu fais demi-tour, tu sais. J'espère que c'est faux.
C'est faux, par contre.
Quel dommage.
C'est dommage, c'était écrit là, c'est dommage. Il existe la ville de Ding Dong, au Texas.
Ding Dong. Okay. Au
Verino et Varok, vous jouez en même temps. Le gouvernement des Fidji était bien embêté en 2005. Pourquoi ? Trois propositions. 1. Ils avaient perdu le papier de leur déclaration d'indépendance. 2. Ils ont acheté des sous-marins.
C'est tellement ça.
Mais ont dû les revendre car les eaux territoriales n'étaient pas assez profondes. 3. Ils n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde de rugby à 13 car l'hymne national était trop long et ils refusaient de n'en diffuser qu'un extrait pendant les compétitions.
Ah, les trois marchent bien. Hein.
Ah ouais, c'est pas mal.
Les trois sont plausibles.
Les trois marchent bien et les trois sont ridicules. Donc il y a vraiment.
Ah, et moi, je dirais. L'histoire des sous-marins, ça m'amuse assez.
Vous êtes sous-marin.
Ouais, alors, ça marche pas parce que eaux territoriales. Mais enfin, bon, dit, allez, je dis c'est sous-marin.
Pourquoi ça marche pas ? Développez votre pensée. Pourquoi ça ne marcherait pas ?
Non, parce que les eaux territoriales, a priori, elles sont profondes. Enfin, il n'y a pas de raison pour que ça soit pas profond pour un sous-marin. Enfin,
bon. Pas de raison. Vous êtes déjà allé aux Maldives, Eva ?
Oui, oui, oui.
Et posté quelques photos sur Instagram, d'ailleurs.
Non.
Les eaux
en
sont
Suisse,
peu profondes.
Ils ont le même problème.
Ouais. En Suisse, avec le lac Léman, on n'a pas pu commander de sous-marin.
Non, mais
c'est
pas, je dis le sous-marin.
Vous dites le sous-marin. Ouais.
Sous-marin. Moi, je vais dire l'hymne national pour le rugby
à 13. Vous dites l'hymne national pour le rugby à 13. Eh bien, vous avez tort, tous les deux. C'est con. Ils avaient perdu leur déclaration d'indépendance qui datait de 1970. Ils ont cherché encore 5 ans sans succès. Le Royaume-Uni, sympa, a bien voulu renvoyer une copie. Nicolas Caro.
Et je comprends juste pas pourquoi Eva répond quelque chose et argumente ensuite pour expliquer qu'elle a tort.
Oui, c'est mon cerveau, Nicolas.
C'est the brain.
Voilà,
il se passe tellement de choses qu'elle peut argumenter et contre-argumenter
dans
le même cerveau.
Mais on est quand même plusieurs dans ma tête. Hein, donc,
Verino,
voilà, il se parle.
À New York, à sa construction, la Statue de la Liberté était un vrai phare avec un gardien dedans. Vrai ou faux ?
Il y a Anissé qui dit non de la tête. Donc
et Eva qui dit non de la tête. Ça, c'est peut-être l'indice le plus fort qui doit vous orienter vers la bonne réponse. Eva fait non, elle est absolument sûre.
Donc c'est oui.
Donc c'est oui, vrai, effectivement. Bon esprit de déduction. De 1886, date de sa construction, jusqu'en 1902, c'était un phare pour le port de la ville. D'ailleurs, le surnom de la statue, c'est la liberté éclairant le monde. Eva Rock,
ouais,
en mars dernier.
L'invité a déjà gagné, donc c'est pas.
Oui, mais pour l'honneur.
C'est pas totalement
vous,
une victoire. Hein,
vous jouez pour l'honneur, Eva, et c'est important.
Allons-y.
Eva Rock, en mars dernier, un juge au Brésil a donné à une mère célibataire une pension alimentaire double. En effet, l'ADN de l'enfant correspondait à deux hommes qui étaient des jumeaux. Les deux hommes niant tous les deux être le père, le juge a ordonné le paiement à l'un et à l'autre. Vrai ou faux ?
Heureusement que j'ai un cerveau, parce qu'il faut la comprendre, notre histoire. non, c'est faux.
C'est faux. Vous pensez donc qu'il y a quelqu'un d'assez con à Europe 1 pour avoir inventé
oui.
une question
ah oui,
aussi en berlin.
J'ai aucun doute là-dessus.
Vous voyez le temps, le travail qu'il y aurait eu derrière pour créer
aucun
cette
doute.
Question
aucun doute.
Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort de ne pas avoir de doute. C'est vrai, ils doivent payer l'équivalent de 69 euros chacun. On est au Brésil. Ces jumeaux avaient pour habitude de se faire passer l'un pour l'autre, les petits saligots. Ni la mère, ni le test ADN n'ont pu résoudre le problème. Les deux hommes, se rejetant la faute, c'est la solution la plus favorable à la maman qui a été choisie. Bravo, le
c'est
Brésil.
Génial.
Qui remporte le quiz ?
Bah, femme quand même.
Mais non, justement, c'est chouette.
Mais non, la femme, elle gagne.
Parce qu'elle, de toute façon, elle est foutue.
Oui, mais c'est quand même horrible. C'est qu'ils ont abusé d'elle d'une façon ou d'une autre, puisqu'ils ne veulent pas dire qui est allé avec elle. Oui, mais ça vous fonctionne quand même.
La meuf, elle a l'art de ruiner un quiz rieur.
C'est la vie, moi, j'ai des copains qui ont des jumeaux. J'arrive... Enfin... C'est
attention.
Des enfants, je les regarde et j'arrive à les différencier. Si je devais faire l'amour avec des jumelles, je ne suis pas certain que j'arriverais pas à les différencier. Cette phrase est très bizarre. Vraiment,
c'est,
je suis
oui,
pas
surtout associée associé à la jumelle des
c'est
enfants.
C'est pas normal.
Oui, c'est vraiment borderline et c'est pour ça qu'on vous aime.
Ma carrière est terminée.
Et vous remportez,
je vous remercie.
Votre carrière est terminée, mais vous remportez le quiz. Vous c'est finissez vrai. En beauté.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Des infos, de la bonne humeur, une compétition qui se poursuit avec Mathieu Noël, bien sûr, c'est l'équipe Sauvage. Et vendredi, en présence, c'était jeudi, en présence de Michael Lyon et Sylvie Testu, Laure d'Autriche nous présentait son sujet sur Europe 1.
Vous écoutez L'Équipée Sauvage, l'émission qui vous révèle les coulisses pas toujours reluisantes de l'audiovisuel, comme Rendez-vous chez les Malawa, le film que nous présentent aujourd'hui Sylvie Testu et Michael Youn. Sauf que nous, on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour vivre de grandes aventures, surtout sur le plan gastrique. Chacun ici garde un souvenir ému de la fois où Nicolas Bedos avait donné le change avec panache, alors qu'il n'était, disons, pas en très grande forme.
J'ai deux télés là après, je sais même pas comment ça va être possible. Il n'y a pas un endroit où je peux gerber.
Dans la poubelle.
Elle a déjà servi à ça.
Oui, Marion Calais, c'est vrai.
Eh oui, de beaux souvenirs, Eva. Mais quoi qu'il arrive, une émission doit toujours continuer. Aujourd'hui, par chance, personne n'a mangé de tête de crevette avariée. C'est donc en pleine forme que Laure d'Autriche se présente à nous. Troisième journaliste en lice pour le titre de chroniqueuse du jour. Laure, vous avez choisi de nous parler de ce que nos auditeurs commencent à bien connaître, les embouteillages.
Oui, et d'une étude de scientifiques français qui concerne les fourmis et qui nous explique que les fourmis ne connaissent pas les embouteillages. Alors, ce sont des chercheurs français du CNRS qui ont mis 25 000 fourmis sur une route fictive, hein, en laboratoire, et avec des tronçons plus ou moins larges, hein, comme on peut le vivre nous.
Si on se demandait où allait l'argent de nos impôts, on est rassuré.
Mais alors, voilà.
Jouer avec des fourmis, quoi. Rien à faire.
Ils ont reconstitué donc cette route en laboratoire, et le résultat est surprenant parce que les fourmis sont bien plus efficaces que les humains. Il n'y a pas eu un seul embouteillage. La circulation était complètement fluide. Voilà.
Vous voulez dire qu'elles s'organisent entre elles pour ne pas se gêner sur la route?
Ouais, exactement. Elles s'organisent. Les fourmis font même preuve de sagesse. C'est ce que disent les scientifiques. Si elles voient qu'il y a trop de monde sur la route, eh bien, elles vont faire demi-tour. Elles ne vont pas essayer de s'engouffrer comme on le fait nous, hein, très souvent, n'est-ce pas? Mais elles se fichent, elles, d'attendre. Elles vont attendre devant la route et puis elles vont attendre qu'il y ait plus de place pour s'engouffrer. Alors, pour les scientifiques, c'est l'expression d'une forme d'intelligence collective. Il n'y a pas de fourmi qui donne le départ, hein, et qui dit « allez-y », etc.
C'est pas la reine des fourmis, là, la grosse fourmi, comme dans le film Fourmise.
Justement, il n'y a pas une reine qui décide, elle s'autogère en quelque sorte, et ça fonctionne très bien. Alors, autre chose, quand la densité de circulation est extrêmement forte, hein, il y a eu jusqu'à 18 fourmis sur un seul centimètre carré, eh bien elles parviennent à maintenir leur vitesse. Nous, c'est impossible, on ralentit systématiquement dès qu'il y a du monde. Eh bien, elles non. Voilà, elles avancent de façon parfois anarchique en allant sur la route d'en face, par exemple, mais leur vitesse est stable, elles restent les unes derrière les autres, c'est assez fascinant quand même.
Comment les scientifiques du CNRS qui ont vraiment bossé.
Mais on leur a donné des véhicules ou comment ça se passe?
Comment, surtout avec leurs petites pattes, comment elles font tenir le volant? C'est ça le problème.
Donc effectivement, elles avancent avec leurs petites pattes. Et alors, pourquoi ça fonctionne comme ça chez les fourmis? C'est parce que, pour les scientifiques, elles ont un but commun, la recherche de nourriture. On leur avait mis de la nourriture au bout de la route. Elles ont un but commun et dans ça, eh ben, il faut qu'elles soient le plus efficaces possible. Alors que chez nous, les humains, bien sûr, c'est l'individualisme qui prime. On va tous au travail le matin.
Même quand on a un but commun, genre aller en vacances, par exemple, au Cap d'Agde pour Michael. Oui. On a un but commun, mais sur la route, il y a des
embouteillages. C'est ça, c'est plus un but personnel, puisqu'on est dans notre voiture, on va au travail, on a notre but individuel. Alors, et c'est pas le cas des fourmis. Le but commun de ces fourmis les rend aussi stratèges, et je vais terminer là-dessus, c'est ce que disent les scientifiques. Lorsque le trafic est très dense, elles vont adapter leur vitesse. Elles vont pas essayer d'accélérer comme nous, tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'elles ne veulent pas entrer en collision entre elles, parce que quand il y a des collisions de fourmis, ça leur fait perdre du temps, un quart de seconde.
Ça déconne pas, je les fourmis.
Voilà. Donc, elles évitent, elles ont leur objectif. En tout cas, nous, quand on fonce dans un pare-choc, ça prend du temps. Elles, avec leur exosquelette, ça va quand même beaucoup plus vite. Elles se touchent les antennes et puis elles peuvent repartir assez vite.
C'est sûr que si on doit se toucher les antennes, nickel, la route va être longue.
Elles craignent pas vraiment les chocs. Alors, juste pour finir, ce qui est fascinant, c'est qu'elles s'organisent très bien et qu'effectivement, même quand elles attendent au bord de la route, au final, elles arrivent à récupérer leur nourriture aussi vite qu'elle l'aurait imaginé. Très efficace là-dessus, même en s'organisant comme elles le font.
Mais quelle conclusion on peut en tirer pour les humains? Est-ce qu'on peut s'organiser comme les fourmis ou il faudra attendre la voiture autonome? Parce qu'il faudrait que toutes les voitures soient interconnectées.
Ouais, c'est vrai que la voiture autonome peut aider, mais pour eux, c'est vraiment l'intelligence collective qui fonctionne.
C'est pas gagné alors.
Voilà,
pour nous.
C'est vraiment ça la clé.
Mais est-ce que dans ce laboratoire, il y avait des voies de bus, des voies de trottinettes, des tramways et Anne Hidalgo qui met des travaux partout? C'est ça là, le problème.
16h, 18h sur Europe 1. L'Équipée Sauvage.
Il est 17h47, on reste pour quelques minutes encore en compagnie de Mathieu Noël et d'Eva Rock pour les moments qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur Europe 1. À chaque jour, un invité chez Mathieu Noël. Mardi, c'était le journaliste Karim Rissouli. L'occasion de parler de l'émission qu'il présente, bien sûr. Et puis, il va affronter Eva Rock dans un vrai faux sur la politique.
Un ancien de la maison, désormais présentateur de C'est Politique sur France 5, une émission qui a pris acte que les débats politiques entre politiciens étaient souvent stériles, voire inaudibles.
Assez,
vous faites un joli métier.
Madame, je vous en prie.
Karine Rissoli a pris un autre parti, celui de parler de politique avec des gens qui n'en font pas. 800 000 téléspectateurs en moyenne pour C'est Politique chaque dimanche sur France 5. Est-ce que vous imaginez déjà que le concept marcherait à ce point ?
Pas du tout.
Vous aviez des objectifs d'audience ou des
non,
trucs comme
quand
ça
quand on a récupéré la case, elle devait être à 380 000 environ.
Vous l'avez plus que doublé.
384, bon ok, je sais pas. Bon, elle devait être
le
à
mec
ça.
Qui regarde pas les chiffres.
Pas du tout, jamais. Donc oui, non, on avait déjà l'objectif de faire aussi bien. On se disait que ça allait être compliqué, qu'on installait une nouvelle, voilà, encore une fois, une nouvelle marque avec une nouvelle façon de parler de politique. Non, je pensais jamais qu'on serait... On est quasiment tous les dimanches à plus d'un million entre 19h et 20h. Et je pensais pas qu'on en serait là, mais je pense qu'on va continuer à monter.
Avec donc des noms politiques, mais des personnes quand même qui ont un avis sur oui, notre société, sûr, sur la politique comme Ariane Ascari, par exemple, dimanche.
Qui ne viennent
pas
pour me dire que leur programme est le bon et que celui voilà. de l'autre en face n'est pas le bon. Mmh. Alors, Ariane Ascari, elle est comédienne, elle vient, elle parle avec son cœur. Elle n'a pas fait une thèse de philo ou de sociaux, mais elle vient, elle nous parle de ce que c'est qu'être une femme et de ressentir la misogynie dans un corps de femme. On a parlé antisémitisme avec elle, on a parlé évidemment de la question sociale avec son dernier film. Et on reçoit aussi beaucoup de sociologues, de philosophes, d'historiens. Et c'est assez jouissif, justement, d'avoir quelqu'un en face de soi et de se dire je suis pas là pour le coincer, je suis là pour qu'on soit tous collectivement plus intelligents à la fin de l'émission qu'au début.
Alors Karim, aujourd'hui vous êtes un journaliste reconnu, mais pourtant votre destin aurait pu être tout autre. Les pelouses angevines portent encore la trace de vos pierres crampons. Vous avez commencé par la section sport-études au collège. Vous auriez pu devenir footballeur ou journaliste sportif au dernier mondial. Vous auriez pu vous égosiller.
J'aime Mbappé, tu aimes Mbappé, il aime Mbappé, nous aime Mbappé, vous aime Mbappé, il aime Mbappé.
Pas de regret de ce côté-là d'avoir choisi plutôt le journalisme politique dans un premier temps plutôt que le journalisme sportif.
Je pense surtout que le foot ne m'a pas choisi lui au départ. C'est-à-dire que j'aurais adoré être footballeur professionnel, mais j'étais pas suffisamment bon, je pense. Mais c'est vrai, Mathieu Charry me regarde.
Il faudrait rétablir une vérité sur cette histoire de foot de carrière.
Alors, allez-y, Mathieu Charry qui connaît bien Karim Rissouli, avant
vraiment que je vote pour lui.
Il y a eu quelques mois en sport-études qui ont été un échec.
Non, il y a eu quelques années en sport-études qui n'ont pas été un échec, mais il y a eu une sorte de légende urbaine. Il disait que j'avais fait le centre de formation du SCO d'Angers et que j'étais à deux doigts de devenir professionnel, ce qui n'est pas vrai.
Mais vous faites une émission sans politique, vous pouvez faire un match sans footballeur.
C'est vrai. Mais c'est grâce à Jean-Philippe Ballas que je pense que je... Non, et c'est vrai, quand je suis arrivé à Europe 1, j'étais très très jeune.
Et c'est Jean-Philippe
encore.
Qui a fait de vous le journaliste que vous êtes.
Il m'a pris par la main.
Oh la vache, Charrier, vous n'allez pas avoir les points, vous, aujourd'hui. Hein. C'est mal barré pour vous. Karim, vous êtes né à Angers, mais votre papa est originaire du Maroc.
Ouais.
Et vous dites, vous racontez que vous avez été longtemps tiraillé par cette double culture.
Oui, quand j'étais donc franco-marocain, enfin, marocain par mon père, français par ma mère, et j'habitais dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une zone périurbaine. C'est un micro-village, petite ville à côté d'Angers, où on était la seule famille arabe du coin. Et effectivement, je ne me sentais pas totalement français là où j'étais, et pas du tout marocain quand je retournais au Maroc l'été. Donc quelques séances de psy m'ont bien aidé à l'adolescence, à traverser tout ça. Ouais.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Un quiz qui traditionnellement oppose Eva à l'invité et où, tout aussi traditionnellement, Eva use de tous les subterfuges pour essayer de s'en sortir, comme hier. Quand on vide un lavabo, ça fait un petit tourbillon. Eh bien, le sens de rotation de l'eau dépend de l'hémisphère dans lequel on se trouve.
Oui, c'est vrai.
C'est faux.
Non mais attendez, j'ai pas encore répondu.
Ah bah non, si. Eva, essayez au moins de perdre dans la dignité.
Ah ouais, non, ça sera mieux. Même pour la triche, je suis nulle.
Karim Rissouli, vous êtes un des journalistes politiques les plus brillants de votre génération. C'est pourquoi tout naturellement. Charrier, vous venez de perdre un.
Est-ce que je peux voter dès maintenant?
Vous pouvez d'ores et déjà éliminer certains journalistes. C'est pourquoi tout naturellement, le quiz portera sur la politique, mais au sens très large. C'est un vrai faux, chaque bonne réponse vaut un point. C'est parti. Karim Rissouli, vous connaissez mes origines helvétiques, ainsi que ma passion pour le chocolat. Mm-hmm. Eh bien, il existe à Lausanne un chocolat praliné appelé le Giscard. Vrai ou faux?
Vrai.
Vous l'avez déjà goûté ou...
Non.
Vrai. C'est un praliné particulièrement apprécié par l'ancien président de la République quand il était à l'Élysée. Ce confiseur de Lausanne a décidé de le baptiser le Giscard, une coque en chocolat fourrée d'un caramel liquide et d'une ganache fermée par une tuile aux amandes. Valérie Giscard d'Estaing en reçoit une petite boîte tous les ans à Noël.
Je cherchais une vanne, mais elle ne me vient pas. J'ai peur de dire un truc très très vulgaire. Allez-y, posez-moi ma question.
On peut vous laisser le temps, si vous voulez développer. Peut-être ça va vous venir. Eva Rock, en 2012, pendant un meeting sur la place de la Concorde à Paris, au moment de serrer des mains à des militants, Nicolas Sarkozy leur a également demandé de verser des pièces jaunes dans une petite boîte, une initiative proposée par Bernadette Chirac. Vrai ou faux?
on aurait vu cette image.
On aurait vu cette image.
On aurait vu cette image ou pas.
Parce que les gens disent politique.
Non, c'est trop gros, je dirais faux.
Vous dites faux ?
Ouais.
Vous êtes sûr de vous ?
Non, je suis pas sûr de moi, mais je dis faux.
C'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot.
Bon, vous avez raison, c'est faux. Par contre, avant de serrer la main.
Non, c'est pas David Douillet qui a. Mais si
ah, attendez, scoop, David était... Douillet a demandé à des gens de verser des pièces jaunes directement.
Mais il était à l'opération
place
Bernadette.
De la Concorde, il a fait un meeting, il a demandé.
Non, par contre, avant de serrer la main des militants, il a caché Nicolas Sarkozy sa montre dans sa poche pour éviter de se la faire voler.
Non.
Prudente précaution, car c'était une Patek Philippe estimée à 55 000 boules. Quand même hein. Donc, on fait attention avec ce genre de montre. Karim Rissouli et Varok, vous jouez simultanément. En septembre dernier, les Républicains ont organisé une réunion publique à Rennes, mais il y a eu un petit bug. Lequel ? 1. On a annoncé la présence de Jean-Louis Aubert, alors que c'était le député Julien Aubert. Christian Jacob devait faire son entrée sur la chanson « Changer la vie » de Goldman. Et une erreur a fait qu'il est arrivé sur « N'y va pas ».
Non, c'est pas ça.
Valérie Pécresse
ce bien, ça.
Avait ouais, un ouais. pupitre rose et Laurent Wauquiez un pupitre bleu. La photo a fait le tour des réseaux sociaux.
Réponse B.
Christian Jacob est arrivé sur N'y va pas.
Ouais.
Eh ben, non, je crois qu'il y a une histoire avec Goldman, mais ça, c'était pas ça l'histoire, donc je dirais pas
ouais,
ça.
Mais il n'y a pas de réponse D.
Ouais, là, c'est pour ça. Là. Non, non, mais c'est pour ça que je pense non, que mais... c'est pas ça. Je, c'était
mais
quoi
donc,
la première
il faut donner une réponse, c'est là, c'est le principe.
Ah non, j'adore la première, Aubert.
Vous adorez la première. Mais le jeu ne consiste pas à adorer
oui,
une réponse, c'est
quand
de
même.
Trouver la bonne.
Je l'adore quand même.
Donc vous dites réponse
ouais, A.
Réponse A.
Ouais.
Bonne réponse, Dévaloc. Jean-Louis Aubert, c'était Julien Aubert qui organisait ce meeting. Il était candidat à la présidence des Républicains. Il a d'ailleurs tweeté avec humour : désolé, la venue de mon alter ego, c'était juste une illusion. Oh. Il allusion au répertoire de l'ex-chanteur de téléphone. Eva Rock, le maire de Barneville-Carteret dans la Manche, a décidé de publier tous les mois dans le bulletin municipal de sa commune la photo d'un fonctionnaire de la commune, homme ou femme, en petite tenue. Vrai ou faux ?
C'est crétin comme idée,
ça. Je
ne
vous demande pas de commenter. Les questions, je vous demande d'y répondre.
Pff, c'est tellement bête que oui.
C'est faux !
Ah, bah, heureusement.
À Barneville, le maire a décidé de publier des lettres d'insultes qu'il reçoit pour montrer que même dans une petite ville, le maire pouvait souffrir de la méchanceté
ah, ça,
gratuite
drôle.
De certains de ses administrés.
Ah,
et ça, c'est
mieux,
une
ça.
Bonne idée.
Bah, on ne lui souhaite pas, mais c'est mieux.
Enfin, cette question va vous départager. Karim Rissouli, notre Premier ministre Édouard Philippe, collectionne les hérissons en porcelaine, les boutons de manchette ou les boîtes de camembert. Cette question vaut 2 points.
Évidemment, Eva.
Pour que l'un reste égal, nous finissons en régime.
Bon. Bouton de manchette, ce serait un peu chiant.
Bouton de manchette, hérisson en porcelaine ou boîte de camembert.
Boîte de camembert.
Boîte de camembert, c'est une mauvaise réponse. Notre Premier ministre collectionne les boutons de manchette. Un document le prouve. La qualité sonore n'est pas très bonne, mais c'est un témoignage vraiment passionnant.
Il y a la paire, la première paire que j'ai achetée, la paire du régiment de garde, que vraiment, j'ai un très bon souvenir de ça. J'ai les seuls boutons de manchette.
Oui, monsieur le Premier ministre,
en fait. Il y a une paire, mais très chère, de boutons de manchette.
Non, mais nous n'avons pas le temps. Le
tourne. Ne représente rien. Ce sont deux petits.
Coupez-le. C'est bon, c'est fini. Qui remporte le quiz ?
C'est moi.
Eva.
C'est moi.
Non, parce que la première question valait 4 points. Non
oh
ah, c'est juste. C'est Karim Rissouli qui remporte le quiz, mes amis. Bravo. Quel talent, ce Karim Rissouli.
Et pour le coup, je crois que l'extrait que vous venez de diffuser, c'est d'un reportage sur France 3 qui avait été fait par un des meilleurs amis d'Edouard Philippe, dont j'ai oublié le nom de famille, pardon.
C'était mon pote de droite.
Mon pote de droite. Un excellent documentaire pour les retrouver.
Ça fait surtout du nez de con, cet
extrait. Bah oui, non, mais...
Karim, on n'ira pas jusque-là. Karim Rissouli, vous présentez C'est Politique. Est-ce qu'un jour, vous pourriez... on sait qu'on parlera tout à l'heure de vos engagements citoyens. Est-ce que vous pourriez vous engager en politique ? Franchir le pas.
Non.
Ça, c'est sûr que non.
Certain.
Il ne fera a priori pas de politique, mais comme disait Gamblin dans Pédale douce...
Il ne faut jamais dire Fontaine.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.